La révolution silencieuse par Estelle Penin. Bonjour, bienvenue dans la révolution silencieuse. En ce mois de mars, qui a célébré la femme pendant une journée, lui rappelant ses droits, ses luttes et ses espoirs, je ne peux m'empêcher de faire un lien avec la nature profonde du féminin qui peut nourrir, donner la vie, créer. Encore faut-il lui laisser sa place et l'écouter en chacun de nous. L'intériorité permet d'écouter son âme et la création permet de se connecter à cette partie féminine qui nous habite. Seulement la société a longtemps opprimé cette partie d'elle-même, étant encore prisonnière d'une éducation judéo-chrétienne, entre autres, qui a semé le trouble dans l'inconscient collectif au sujet du péché originel. Le féminin a longtemps été mis à l'écart, à tel point que je crois qu'il y a urgence à réintégrer sa place dans notre cœur, au risque d'aller droit dans le mur. Le siècle sera féminin, ou ne sera pas, aurais-je envie de dire. Ce qui revient à « le siècle sera spirituel ou pas », n'est-ce pas ? Comment apaiser cette lutte intérieure entre notre masculin et féminin, notre yang et notre yin ? Il y a des voyages nécessaires à accomplir dans une vie, dont le chemin vers l'amour. L'amour demeure le seul médicament à la gangrène de la haine qui gonfle les cœurs apeurés par un système qui les étouffe. Et l'amour se trouve au cœur de soi. Je crois qu'au fond, l'humanité souffre d'une maladie terrible, le manque d'amour. Et ce manque s'installe peu à peu dans le cœur au point de le dessécher, de le rendre aride, sec, aigri. Et parfois, la maladie arrive sans crier gare à l'esprit inconscient d'être une âme habitant un corps. Et oui, le mal-être ronge notre corps. Heureusement, il y a des âmes qui connaissent des routes invisibles pour parler le langage de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage dans un monde peu connu des Occidentaux et pourtant dans lequel chacun de nous garde une mémoire au cœur de notre inconscient collectif, le chamanisme. Un mot qui revient dans nos oreilles occidentales depuis quelque temps, mais dont on ne sait pas toujours la véritable signification. Eh bien, il s'agit d'une pratique centrée sur la médiation entre les êtres humains et les esprits de la nature. Le chamanisme, au sens strict, prend sa source dans les sociétés traditionnelles. Le terme « chaman » est introduit en Europe vers la fin du XVIIe siècle à travers les récits publiés par quelques explorateurs et marchands. La nature du chamanisme fait l'objet d'un débat. Les scientifiques, ethnologues et érudits divers ne se sont guère intéressés à l'idéologie du chamanisme, certains refusant même de discuter de son éventuelle nature religieuse. Certains y voient un système inventé pour donner du sens à leur vie. D'autres pensent qu'il s'agit d'une vision bipolaire et dualiste de l'existence. Quand d'autres encore y voient de la magie, voire de la sorcellerie. Quelles que soient les croyances, le chaman interroge sur sa place dans notre société occidentale. Mais que fait exactement un chaman ? Le chaman est un être complexe chez qui on a voulu voir un guérisseur, un sorcier, un prêtre, un magicien, un devin, un médium ou encore un possédé. On peut citer parmi quelques attributions, traiter certaines maladies, nommer un enfant, faire tomber la pluie, retrouver un objet perdu. Pour communiquer avec les esprits, le chaman se met en transe grâce à ses rituels. Ceux-ci se caractérisent par une expression corporelle et un état psychique particulier, dont les tremblements sont l'élément le plus évocateur. En fait, un esprit est présent dans le corps du chaman. La transe est toujours associée à un élément musical, et dans son étymologie, il y a la notion de passage et de changement. Le chaman se met aussi en rapport avec l'au-delà, par le moyen des songes ou des visions. Alors pourquoi s'intéresser au chamanisme dans une société comme la nôtre ? Pourquoi un tel engouement exotique des Européens pour cette pratique ? Un cerveau occidental peut-il appréhender une approche chamanique au vu de notre éducation ? Toutes ces questions font partie d'un vaste débat. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui une occidentale faisant l'expérience du chamanisme dans ses chairs et qui va nous amener à comprendre davantage ce voyage dans la conscience, les esprits et l'invisible. Pianiste et reporter pour BBC World Service dans une vie précédente, Corinne Sombrin a raconté dans ses précédents ouvrages ses incroyables aventures en Amazonie avec le journal d'une apprentie chamane et en Mongolie avec des livres comme « Mon initiation chez les chamanes » ou « Les tribulations d'une chamane à Paris ». En 2001, au cours d'un reportage en Mongolie, un chaman lui annonce justement qu'elle est chamane elle-même. Elle n'en revient pas et ça va être le début d'une grande aventure. Sa quête et sa soif de comprendre vont la conduire à un voyage extraordinaire où elle se verra devenir loup, entendra des esprits, aura des visions, sans parler des rencontres qui vont jalonner sa route, comme celle avec Arline Geronimo, medicine man et arrière-petit-fils du célèbre guerrier Apache. Ensemble, Corinne Sombrin et Arline Geronimo vont donc échanger leurs connaissances respectives sur les traditions Apache et mongoles, dont certaines sont effectivement très ressemblantes, et faire un voyage pèlerinage jusqu'aux sources de la Gila, le lieu de naissance de Geronimo. Corinne Sombrin poursuit ses recherches sur la migration des peuples de Mongolie et se rend en Alaska où elle entre en contact avec les Indiens Athabascans, ancêtres des Apaches et descendants supposés des Mongols. Elle découvre un peuple engagé dans un travail remarquable pour la préservation de l'environnement et dont certaines traditions ancestrales sembleraient effectivement pouvoir corroborer la théorie d'une relation de descendance avec le peuple mongol. Parce qu'elle est également à l'origine du premier protocole de recherche sur la transe chamanique mongole, étudié par les neurosciences en collaboration avec des chercheurs français et nord-américains, nous allons entrer un instant dans cet univers particulier dont on ne peut ignorer l'existence au vu des pratiques millénaires qui attirent de plus en plus d'individus sur cette planète. Pour entreprendre ce voyage avec nous, je vous invite à vous asseoir, vous allonger ou vous arrêter où que vous soyez, à fermer vos yeux et vous laisser transporter pour cette exploration de la conscience avec Corinne Sombrin, habillée musicalement par différents chamans. Bienvenue dans la révolution silencieuse.
Bonjour Corinne Sombrin, vous avez passé votre enfance en Afrique, à Ouagadougou, exactement au Burkina Faso. Votre mère était rédactrice et présentatrice de journaux d'information de la Radio Nationale et votre père dirigeait l'installation du réseau téléphonique en brousse. On peut globalement dire que vous avez eu une enfance heureuse et vous m'avez confié que vous avez quand même eu une première expérience de transe quand vous étiez toute petite. Est-ce que vous en avez un souvenir précis ?
Pas vraiment, non. C'est surtout ma mère qui me l'a rappelé quand il m'est arrivé cette expérience après, en Mongolie. Et elle m'a rappelé que, donc mon père installant ce réseau téléphonique, il partait souvent en brousse, donc il emmenait ma mère et sa fille. Donc un jour, ils ont assisté à une cérémonie de funérailles, chez les Mossi probablement, une population du Burkina Faso. Et donc il y avait les masques, il y avait des tambours, il y avait des danses, il y avait des choses comme ça. Et puis tout le monde était installé, la tribu était installée en cercle autour des masques et des danseurs. Donc mon père et ma mère sont arrêtés avec moi. Et il y avait un chien aussi avec nous, qui était notre chien. Et paraît-il, j'ai été très très attirée par cette musique et je ne cessais d'avancer vers le centre et je me suis mise à trembler et le chien aussi s'est mis à trembler. Donc elle avait deux membres de la famille qui se sont mis à trembler et elle s'est rendue compte qu'on n'était plus du tout dans un état normal. Alors elle m'a tirée doucement par le pull, ou, non certainement pas le pull, enfin ce que j'avais là-bas parce qu'il fait chaud. Donc elle m'a tirée en arrière pour m'obliger à sortir du cercle tout doucement, et avec le chien aussi. Voilà. Donc elle m'a dit, c'est sans doute ta première expérience de transe, parce que j'ai bien vu que tu n'étais pas dans un état normal. Et donc j'étais trop petite, je devais avoir 6 ans, quoi. Donc je ne m'en souviens pas vraiment, j'ai de vagues.
Et puis il n'y a personne du cercle qui vous en a parlé?
Non, parce qu'eux étaient tous aussi pris dans cette cérémonie, et c'est très fort là-bas, c'était dans les années, dans la fin des années 60, donc c'était encore pas touristique, et c'était vraiment des cérémonies traditionnelles respectées, donc était très puissante. Alors tout l'auditoire était quasiment en transe aussi.
Oui, quand même une petite prédestination, parce que tout le monde n'est pas enfant et ne vit pas ce genre de cérémonie. Mais on pourrait dire, hein, peut-être.
Peut-être que si tout le monde vivait ce genre de cérémonie, tout le monde rentrerait. Ouais.
Voilà. Peut-être. Peut-être. Et oui, peut-être. Voilà. Et peut-être. Essayons à Paris.
Mais oui, ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé parce que je l'ai vécu. Si, oui. Si, c'est sûr qu'il faut pouvoir assister à une cérémonie, moi aussi, de funérailles.
Bon. Oui. Non, mais c'est sûr. Alors, en fait, vous passez donc là-bas jusqu'à peu près 7-8 ans. Hein, vous restez en Afrique. Et en fait, vous rentrez en France avec votre maman. Et de retour en France, vous décidez de vous consacrer aux études de musicologie. Alors, ce n'était pas vraiment une vocation, c'est que maman trouvait plutôt sympa de vous faire faire du piano, ou du piano, hein, je crois.
C'était du piano, oui. Voilà. Oui, moi, je voulais faire du violon, mais ça a été le piano parce qu'il n'y avait plus de place dans la classe de violon. Voilà. Donc, j'ai été inscrite au cours de piano et j'ai travaillé le piano comme tous les enfants qui sont inscrits au piano, qui font ça après leurs devoirs le soir et qui préféreraient aller s'amuser avec les copains.
Oui, j'ai connu. Alors, mais lauréate quand même de concours nationaux, internationaux, hein, quand
oui,
même.
Oui, pour oui, après, j'ai poussé, fait... oui. Voilà. J'ai poussé, j'ai traîné la jambe jusqu'à ce que ma mère un jour me dise « Écoute, maintenant, tu fais du piano ou tu en fais pas, d'accord ? C'est toi qui décides. » Donc, le jour où elle m'a dit ça, j'ai pensé que j'étais responsable de mes décisions. Alors, j'ai dit « Bon, ben d'accord, je continue. » À partir de là, j'ai travaillé sans plus rechigner.
C'était plus l'envie d'être responsable déjà de votre destinée ou plutôt plaire à maman ? Vous savez pas ?
Sans non. doute être la sensation d'être responsable de mes décisions m'a beaucoup plu.
Ouais.
Et puis j'ai compris que c'était pas pour lui faire plaisir, c'était pour moi. Est-ce que j'avais envie ou pas? Donc sa démarche a été très intelligente, je trouve. Ouais. Il faut donner à un moment à l'enfant, je crois, la responsabilité de décider pour lui de ce qu'il a envie de faire ou pas. Parce qu'on peut pas pousser les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Hein, c'est...
Voilà. Je partage votre avis. Et l'envie de partir au Québec et à Montréal pour étudier auprès de performeurs multimédia et de compositeurs, c'est aussi une décision de votre part ?
Oui, bien sûr. Après, j'étais grande. Là, j'avais 23 ans. Voilà, j'étais adulte. Donc, pourquoi le Québec ? Parce que les performeurs là-bas étaient beaucoup plus en avance qu'en France. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà intégré, c'était dans les années 80, ils avaient déjà intégré la composition multimédia. C'est-à-dire qu'ils faisaient intervenir des images, des hologrammes, donc la musique n'était plus, la musique contemporaine du moins, n'était plus juste un instrument ou un ensemble d'instruments. Donc il y avait la dimension électronique, il y avait la dimension des images, il y avait la dimension de la danse. Donc j'avais imaginé un projet de travail avec des danseurs, et donc un projet multimédia. Donc j'ai eu une bourse de l'Office franco-québécois pour la jeunesse pour essayer d'aller réaliser ce projet. Donc j'ai rencontré des performeurs multimédia, des compositeurs comme François Morel, Jean Papineau Couture, qui sont, lui est décédé aujourd'hui, et qui m'ont ouvert une dimension que j'ignorais, j'avais soupçonné, mais que je ne connaissais pas en France sur la musique contemporaine.
C'est quoi cette dimension ?
La dimension multimédia.
Multimédia, côté multimédia, d'accord.
C'est-à-dire pas uniquement le son, mais aussi les images. À l'époque, c'était juste ça.
Oui, c'était oui parce que les arts numériques, on en parle aujourd'hui,
mais ça n'existait pas.
Ça n'existait pas.
Voilà, oui, tout à fait. C'était tellement confidentiel que peut-être. Voilà. Moi, j'ai eu mon premier ordinateur, ça devait être dans les années, 90 par là, oui.
Ouais.
Oui. 80, fin 80, des années 80, il me semble.
Et alors, quand on est artiste, qu'est-ce qui donne envie après de diriger une école de musique comme vous l'avez fait à peu près 28-29 ans?
Oh, c'est les opportunités et c'est voilà, et puis quand on donne des concerts, qu'on a un prix international et ça marche pas forcément, je veux dire, après il faut vivre, il faut se nourrir, il faut payer les locations et les crédits, donc il faut faire quelque chose. Donc j'ai eu l'opportunité de diriger une école de musique, donc c'était super intéressant et j'ai beaucoup aimé le fait de transmettre, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai d'ailleurs inventé une méthode qui permettait d'apprendre le solfège avec des jeux de cartes. Voilà. Et après, par ordinateur aussi, j'avais créé un jeu. Et c'était vraiment un plaisir de voir les gamins s'amuser en apprenant le solfège. Hein.
Mm-hmm. Oui, parce que souvent, le conservatoire,
c'est une purge, hein, le solfège. Ah oui, exactement. Donc là, ils s'amusaient. Et les parents, une fois, un parent d'élève était venu me voir et il m'a dit écoutez, ça va pas du tout. Mon fils m'a dit qu'il avait joué aux cartes pendant les cours de solfège. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont pas là pour jouer aux cartes. Voilà. C'était rigolo parce que c'était vrai. Oui, donc j'avais des cartes avec des notes, avec des valeurs. Donc on jouait à la bataille avec des valeurs, des notes et tout ça. Et c'était très sympa.
Et du coup, ils apprenaient mieux, je suis sûre.
Ah ben, ils s'éclataient. Ouais. Ça devenait un jeu, mais c'est ça l'humain. Je veux dire, pour apprendre, il faut qu'ils s'amusent. Donc c'est pas compliqué à comprendre. Moi, la première, donc j'ai bien compris ce que...
Ah ben, c'est pas compliqué à comprendre, oui, pour vous peut-être, mais malheureusement, dans les conservatoires... Oui. Vous avez pas eu envie de développer l'idée, d'ailleurs? Petite parenthèse, à cette époque.
Oui, j'ai développé l'idée pour en faire une méthode qui a été illustrée par Franck Margerin, mm-hmm. et qui n'a jamais été éditée de toute façon, donc c'est pas sorti. C'est... Mais bon, c'est jamais trop tard.
Oui, voilà, hein, c'est peut-être une piste.
C'est une piste.
En tout cas, bon, la musique a déjà ponctué beaucoup le début de votre vie. Alors, dans les temps forts de cette émission, on peut déjà parler de cette rencontre avec votre compagnon de l'époque. Vous allez passer 10 ans de vie commune. Alors, pourquoi on a gardé ça en temps fort dans la découverte de votre parcours?
Le temps fort, c'est le partage d'un amour pendant autant d'années, mais après, c'est surtout la perte de cet amour, le temps le plus douloureux, si on peut pas dire fort, qui m'a obligée à partir du sud de la France où j'habitais et à partir à Londres où ma vie, à partir de là, a complètement basculé dans une dimension que je pouvais pas soupçonner encore.
Vous aviez besoin de quitter la France pour quitter cet amour ou
Oui, de quitter la France. Oui, simplement de changer de lieu. Et j'avais pas d'enfant, donc c'était facile aussi hein, de me déraciner. Mm-hmm. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller à Londres et je suis partie à Londres.
D'accord. Donc ça, c'était en 99, vous êtes partie, vous avez continué de votre métier de pianiste et de mm-hmm. compositrice. Mm-hmm. Donc vous avez créé différentes pièces. Vous avez travaillé avec différents... Ben là, par exemple, je vois percussion iranienne. Vous avez créé
Bijan Chemirani. On avait créé pour le Festival de voix sacrée de Londres une pièce pour piano, poésie et percussion iranienne. Voilà.
D'accord. Alors vous parlez de voix sacrée. Est-ce que c'était quelque chose, comment dire? De choisir ça aussi, d'aller dans un côté sacré, où ça s'est présenté aussi à vous?
Non, c'est un festival de tradition du monde entier, donc de gens qui viennent partager des musiques du monde entier et qui viennent à Londres pour ce festival. Je sais pas s'il existe toujours d'ailleurs. Et c'était bien parce qu'on rencontrait des musiciens du monde entier, des chanteurs du monde entier qui travaillaient sur des musiques traditionnelles, hein, bien sûr, pas des musiques contemporaines. Donc c'était intéressant de participer à ce festival, mais c'était pas... On est venu me chercher, c'est pas une démarche de ma part.
C'est pas une démarche de votre part, mais c'est marrant parce qu'encore une fois, il y a quelque chose de sacré. Le sacré, la religion, c'est quoi votre point de vue à ce moment-là, du sacré et de la religion?
Rien du tout, aucune opinion, sinon la beauté de ce que je pouvais croiser parfois d'un monument, d'une église, d'une peinture. Voilà, je trouvais une dimension sacrée dans ces œuvres, dans la mesure où elles me permettaient de sortir de moi-même, de sortir de l'habitude que j'avais de moi-même. Donc pour moi, le sacré, ça se résumait à ça. J'ai jamais adhéré à aucune religion. Mm-hmm. En revanche, j'avais beaucoup lu sur toutes les religions, parce que je trouvais que les démarches, enfin le fond de la religion était intéressant. La forme dépend de la population dans laquelle elle s'est développée, mais...
Qu'est-ce qui vous intéressait dans la religion, vous disiez, d'intéressant?
La symbolique.
La symbolique.
Oui, la symbolique, ce que ça disait de l'humain et de sa façon de se connecter à son environnement, à ce qui le dépasse. Mm-hmm. Mais c'est tout. Après, j'ai pas de pratique religieuse particulière.
Ouais, vous étiez athée et c'était pas pour...
Je suis pas athée, non. J'ai toujours pensé que il y a de toute façon une dimension qui est plus grande que l'humain et à laquelle on est connecté, alors qu'elle s'appelle Dieu, cacahuète ou chemise, ça n'a pas d'importance pour moi.
C'est de la dialectique, c'est pas...
Oui, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un espace dans lequel, un espace qui nous permet de nous dépasser, qui nous permet de nous connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est tout la perception que j'en avais à l'époque. Mm-hmm. Donc après le travail, le chemin que j'ai fait jusqu'à présent m'a donné beaucoup plus d'informations sur cette sensation. Voilà. Mais c'était ce que j'en ressentais à l'époque.
D'accord. Et dans la création, le fait de faire un art, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs, bon là c'est la musique, vous, votre vision de musicienne, il y avait cette dimension sacrée, enfin cette dimension un petit peu plus grande que juste faire de la musique.
Oui, il m'est même arrivé une fois pendant, j'accompagnais un élève pour le prix de conservatoire, du conservatoire de Nice. Et à un moment on jouait une sonate de Beethoven, donc je jouais le piano, lui il jouait du violoncelle. Et à un moment, je jouais, puis je suis partie. J'ai compris après que c'était une forme de transe. Donc j'étais tellement bien dans la musique que je me suis fondue dans cette musique. C'est difficile à expliquer. Et quand je suis revenue de cet état, parce que c'est un petit peu comme dans les dessins animés, vous savez, quand on voit le loup qui continue à courir, et puis il y a une falaise en dessous, ou le coyote, et puis il y a une falaise, et puis il se rend compte qu'il est dans le vide, et tout d'un coup il tombe. Ça m'a fait la même chose quand je suis revenue. Donc j'ai vu mes doigts qui continuaient à jouer, et je me suis dit, mais où est-ce que je suis partie? Et j'étais tellement bien là, j'étais vraiment la musique, j'étais devenue, c'était une union parfaite. Et quand je suis revenue, j'ai dû m'arrêter, parce que je ne savais plus du tout où j'en étais. Donc tout le monde m'a regardée. Parce que c'est impossible que le pianiste s'arrête quand il accompagne.
Oui,
c'est pas possible. Surtout qu'on a la partition dans ces cas-là et que bon, on peut pas s'arrêter, c'est pas possible. Donc tout le monde m'a regardé, je me suis excusée, j'ai pas pu expliquer évidemment ce qui s'était passé. Et puis j'ai continué et bon, il a eu son prix de conservatoire, donc c'était bien. Mais voilà, sans doute une expérience qui m'a mise face à cette dimension qui nous dépasse et qui fait que tout à coup l'ego disparaît et on se fond dans cet espace qui nous environne et qu'on devient plus grand que ce qu'on a l'habitude d'être.
D'ailleurs, la sensation que ce n'est pas vous qui jouiez presque.
Ah non, c'était plus moi. J'existais plus. C'était très très intéressant. Donc c'est une perception que j'ai retrouvée après grâce à la transe, et donc c'est pour ça que j'ai compris que c'était sans doute cet espace, c'était sans doute un espace de transe qui m'était arrivé au conservatoire de Nice.
Et alors en parallèle, pour gagner aussi votre vie, vous faisiez des reportages pour la BBC World Service, et toujours, alors c'est rigolo hein, quand même de le noter, mais toujours dans le cadre d'un programme sur les religions, encore une fois.
Oui, alors justement la productrice qui m'avait invitée à participer à ce concert pour le Festival de Voix Sacrée était donc travaillée pour la BBC. Et moi, à l'époque, je travaillais pour des peintres aussi. On avait monté un projet avec un peintre pour faire une œuvre musique contemporaine et peinture. Donc ça, c'était dans le cadre d'un prix qui s'appelle le Turner Prize. Donc ce peintre voulait concourir pour ce prix. Il m'avait demandé d'imaginer une pièce qui allierait la peinture et la musique. Donc, j'ai été invitée dans pas mal d'expositions de peinture, du coup, et lors d'une de ces expositions, j'ai vu des tableaux qui étaient dessinés sur des écorces d'arbres. C'était très beau, ça me parlait beaucoup. Et j'ai pu rencontrer le peintre qui m'a expliqué qu'il était d'Amazonie, donc sa culture, c'était les plantes d'Amazonie, qu'il connaissait très bien ça. Donc moi je lui parle de la musique, et puis il me dit, mais vous savez, chez nous, on peut arriver à réharmoniser ses énergies, à être mieux, si on trouve un son. Dans notre tradition, on a tous un son fondamental, et si on arrive à chanter ce son, eh bien ça nous fait du bien. Voilà. Alors évidemment, en tant que musicienne, ça m'a beaucoup intéressée. Et je lui ai dit qu'il m'en dise un petit peu plus. Et il m'a dit, pour ça, il faut venir en Amazonie. On peut pas le faire ici. Vous pouvez l'expérimenter en Amazonie. Bon, j'avais pas du tout envie d'aller en Amazonie. Et puis, bon an, mal an.
Vous y êtes allée.
Quelques mois après, j'y suis quand même allée parce que la curiosité poussant. Et donc, la productrice de la BBC me dit, écoute, si tu fais... si tu fais cette expérience là-bas, moi je fais un programme sur les religions pour la BBC, pour BBC World, pour la radio. Si tu veux, je te donne le matériel et puis tu nous fais un reportage là-dessus. Alors elle m'a fait une page d'explication sur comment il faudrait faire le reportage et tout ça, parce que j'avais pas du tout d'expérience. Mais ce qui est bien avec les anglo-saxons, c'est que Il suffit pas d'avoir l'étiquette journaliste pour pouvoir faire le job. Si le sujet les intéresse, il vous donne la possibilité de le faire.
Voilà. Oui, c'est ça qui fait qui est chouette de travailler.
C'est très chouette, exactement, ouais, exactement. Là, j'ai découvert cet esprit qui est moins étiqueté que qu'ici. Et puis voilà, donc je l'ai fait. Alors quand j'ai rencontré ce peintre, justement, non, il m'a raconté tout ça et j'en ai parlé à cette productrice de la BBC qui m'a dit, bon ben voilà, comment Tintin est parti en Amazonie avec son matériel pour la BBC. Et elle m'a dit, quand tu reviens, si tu as fait un reportage correct, ça va, on le diffuse, sinon on ne le diffuse pas. Voilà. Pam 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 bala pam 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 bala pam 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 bala pam.
Pour une Sombrin, vous partez donc dans le cadre de vos reportages pour la BBC World Service, tout d'abord en Amazonie. Vous allez faire à peu près 6 reportages pour cette radio. Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir dans un premier temps qui va vous emmener jusqu'au reportage en Mongolie dont on parlera plus longuement dans un second temps, qui fait que ça, vous en êtes arrivé justement à rencontrer un chaman en Mongolie. En Amazonie, qu'est-ce qu'il se passe ?
Donc ce chaman, ce personnage, ce peintre que j'avais croisé à Londres me dit, bon, tu vas découvrir ce son, mais seulement il faudra prendre des plantes, il faudra prendre des choses comme ça. Donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, il ne me parle pas de ces plantes. Et donc je me retrouve en Amazonie et je lui dis, voilà, je suis là, coucou.
Donc, excusez-moi, vous aviez, par votre curiosité, fait des recherches ou quelque chose, êtes parti à l'aveugle comme
non,
ça
non, à l'aveugle, complètement. Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, alors... Enfin, je ne savais pas m'en servir, en tout cas. Sinon, je t'aurais fait un coup de Google.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile qu'on fait tout ça.
C'est génial,
quoi.
Ça, ouais. C'est sûr. C'est sûr. Mais donc je suis partie et je me suis retrouvée à Iquitos. Là, il m'avait donné rendez-vous dans un hôtel où je devais appeler. Enfin bref, voilà. Donc on s'est retrouvés. Il m'a emmené dans cette jungle qui s'appelle Sachamama. Et il m'a dit, bon, ben on va commencer. Mais en fait, pour découvrir ce son, il va falloir que tu vives la vie d'un apprenti chaman. Voilà. Alors j'ai dit, tu veux dire quoi, ça? Donc il m'a emmené au fin fond d'un vallon. Ça voulait dire rester isolé dans la jungle pendant... pendant le plus du mois où j'allais rester là-bas, en ce qu'ils appellent diéter des plantes, c'est-à-dire prendre le suc de cette plante dans certaines conditions et sans quasiment manger. Enfin, il y a tout un protocole, un régime à faire. Et après, il m'a dit, on va prendre aussi une plante qui s'appelle ayahuasca. Et alors ça...
On peut peut-être dire pour nos auditeurs que le fait de faire, de prendre des plantes et de faire une diète, ça a son utilité, bien entendu, mais laquelle, c'est parce que plus on purge le corps, plus on lui enlève les toxines, plus on peut rentrer dans un état modifié de conscience. Ça... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, alors...
Alors peut-être pas
la
le
diète, oui. La diète, c'est ça. Voilà. Oui. La diète, c'est ça. Alors les plantes, en revanche, c'est
autre chose.
C'est, voilà. La diète, oui, c'est exactement pour... Mais je ne savais pas à quoi ça servait, moi, à l'époque. Donc il me dit, tu fais une diète. Bon, ben, je fais une diète parce que je ne savais pas ce que j'allais
prendre. Alors on ne vous dit pas pourquoi ?
Mais non, on ne me dit pas pourquoi.
Voilà. Vous êtes une aventurière.
Non.
Vous l'êtes devenue, en tout cas.
Non, toujours pas. Donc après il me dit, bon bah tu vas prendre cette plante ayahuasca. Alors il me raconte un petit peu les effets que ça lui fait, qu'il a des visions, que c'est les choses que prennent les chamans. Bon, ça m'inspire pas beaucoup parce qu'il me dit, tu vas vomir, peut-être t'auras la diarrhée, peut-être voilà. Donc j'ai pas très envie de prendre cette plante. Et il me dit, mais bon, si tu veux découvrir le son, il va falloir passer par là. Bon, d'accord. De toute façon j'étais là et j'ai joué le jeu. Bref. Il m'a fait prendre de cette plante. J'avais tellement la trouille que j'ai mis 2 heures à réagir. Donc il me dit, c'est incroyable. En général, c'est 20 minutes. Donc t'as vraiment peur, hein? J'ai dit, bah oui, c'est sûr. Enfin bref, donc j'ai eu des visions, j'ai eu des choses comme ça. Et puis,
dès la première prise, vous avez eu des visions?
Oui, bien sûr. Enfin bien sûr, je sais pas si c'est...
Non, parce que c'est pas pour tout le monde comme ça.
Voilà. Donc j'ai eu des visions, c'était très agréable d'ailleurs, j'ai vomi un petit peu, mais bon, ça s'est très bien passé, c'était pas du tout...
Vous avez un souvenir des visions ?
Oui, oui, bien sûr, j'ai des souvenirs, des visions, mais ce serait long d'en parler là.
Oui, peut-être long, mais c'est aussi intéressant parce que...
C'était la vision la plus classique, c'est la vision des serpents, des branches et des feuilles qui se transforment en serpents parce que l'animal de cette c'est une liane, hein, la ayahuasca. Mm-hmm. Donc le symbole de cette liane, c'est le serpent. Donc en avoir les visions, pour eux, c'est un signe que la plante est en train d'entrer en contact avec vous. Et que, voilà. Donc c'est toute une tradition qui était bien loin de ce que j'avais l'habitude de vivre et d'entendre, mais c'est quelque chose dans lequel j'ai été plongée et que j'ai trouvé finalement assez intéressant parce que pour eux c'est la plante qui vous enseigne, c'est l'esprit de la plante qui vous enseigne, qui vous enseigne quelque chose, et le fait de l'avaler, de la boire est une façon pour eux d'en découvrir la connaissance.
Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que, bon, pour l'instant, moi, le seul film qui a vraiment retracé une forme de, enfin, ses visions, c'est le film de Yann Kounen. Est-ce que, bon, il a essayé de le faire du mieux qu'il a pu, puisque c'est quand même difficile de traduire des couleurs qui n'existent pas dans ce monde-là. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a des choses vraiment dans ses différents films où il parle de ça, où justement on voit ses formes sur ses animaux, sur les rampants, sur ces visions-là. Vous êtes assez d'accord sur ce genre de...
Oui, c'est sa vision des choses, mais souvent les visions sont propres à chacun. Donc,
c'est ce que j'allais vous demander, en
voilà.
Fait. Oui.
Donc, moi, j'ai vu beaucoup de formes géométriques. J'ai vu que je me suis transformée aussi. Là, j'étais une sauterelle cette fois. Et donc, j'avais vraiment l'impression de prendre le corps d'être une sauterelle. C'était très étonnant. C'est la première fois que j'avais l'impression d'être un animal. Après, ça m'est arrivé, mais... Les visions, c'était beaucoup de visions géométriques.
Alors, le chaman, à ce moment-là, vous explique, vous, quand même, à votre retour du voyage, on va dire, ce que la plante a pu vous enseigner à ce moment-là. Vous avez un retour?
Non, lui ne sait pas... Enfin, j'étais la seule à pouvoir savoir ce qu'elle m'avait enseigné, et lui dit il peut pas interpréter les visions. Il dit pas si tu as eu telle vision ça fait ça, parce qu'il n'en sait rien, en fait. Et que chaque vision est vraiment propre à chacun. J'ai vu, par exemple, je voyais de la bouche du chaman, je voyais le son sortir avec les trois couleurs fondamentales, et c'est la première fois que je voyais le son. Voilà, peut-être parce que je suis musicienne, mais en fait, ils disent que chaque personne trouve dans ce qu'elle va voir, ce qu'elle a envie de voir aussi, peut-être.
Non, mais c'est intéressant de dire ça. Je veux dire, c'est pas parce que... Enfin, je veux dire, à telle prise, il n'y a pas telle chose qui se passe.
Non, pas du tout. C'est vraiment propre à chacun.
C'est vraiment propre à chacun. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que cette plante...
À part la vision du serpent.
Voilà.
Parce que ça, c'est une vision assez commune à la majorité des gens qui prennent ce breuvage. C'est une vision assez commune. Voilà. Après, le reste, c'est... Bien sûr, il y a des archétypes, mais la sensation, la perception et les visions sont vraiment propres à chacun.
Est-ce que vous avez eu le sentiment d'entrer au cœur de votre ADN?
Non.
Non, c'est pas... Alors, de votre conscience?
Non plus.
Alors, vous étiez...
Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est l'ADN? Je veux dire, après, on ne sait pas. Pour vous, j'étais juste dans un monde qui me semblait où j'entendais les sons de la jungle beaucoup plus que dans un état normal. J'avais une vision qui était complètement changée, puisque j'avais l'impression de voir les sons, de voir tout ça qui était en couleur. Quoi,
vous avez une acuité, quoi.
C'était une acuité, avec une conscience du moment et une notion d'être une part de l'ensemble. Qui était beaucoup plus importante que dans un état normal. Voilà, c'est tout ce que j'en ai retiré.
Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans votre livre, le journal d'une apprentie chamane? C'est cette expérience-là?
Oui, c'est
d'accord.
Ça.
Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc ensuite, quand vous partez donc de là-bas, alors on peut faire quand même une parenthèse.
Oui, au bout d'un mois là-bas, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que le chaman qui s'appelle Roberto me dit que j'allais diéter une plante qui était censée enseigner les rêves, qui s'appelle Arosacha, je crois. Et cette plante, en diétant cette plante, donc ça veut dire rester plusieurs jours isolé dans la jungle, en prenant cette plante à 4 heures du matin, et puis en voyant personne, en parlant à personne.
Ça vous faisait pas peur?
Au début, oui, mais j'avais peur la nuit, surtout dans la jungle, parce que j'ai dormi dehors. Enfin bon, c'était dans une hutte sans mur et sans tout. Oui,
ça change de Londres, oui, c'est sûr.
D'ailleurs, les gens qui lisent ce livre rient beaucoup, parce que c'est vraiment l'histoire de mes terreurs. Voilà. Et donc lui me dit, cette plante va t'enseigner les rêves. Je lui dis, mais ça veut dire quoi enseigner les rêves? Je sais rêver, quoi, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il m'a dit, tu verras que dans certains rêves, c'est pas des rêves, c'est peut-être des informations, c'est peut-être eux disent des messages, des esprits. J'étais assez sceptique, mais bon, j'ai quand même fait. Et au bout de quelques semaines là-bas, je fais un rêve, effectivement, une sorte de rêve éveillé, où je vois l'esprit d'un arbre qui s'appelle Chulia Chakikaspi. Et c'est un jeune homme, cet arbre. Donc je me dis, ça doit être lui, ça doit être ce jeune homme. J'avais l'impression que c'était lui. Et il me dit, prends la feuille qui est là et mets-la contre ton oreille. Donc je fais ça, virtuellement, dans le rêve. Et j'entends un son diphonique, un chant diphonique. Alors je sais, en tant que musicienne, que ce chant diphonique est pratiqué en Mongolie, chez les Touvas, donc dans ces zones de Sibérie. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire en Amazonie, un truc pareil, c'est quand même bizarre. Alors j'ai trouvé ça assez anachronique. Et quand je suis partie d'Amazonie, j'ai quand même cherché à savoir
c'était peut-être...
pourquoi. Ouais. Pourquoi. Donc quand j'ai eu la possibilité d'aller faire un autre reportage, j'ai dit, je vais aller en Mongolie. Voilà. Et donc là, l'émission étant sur les religions, on m'a demandé de faire un reportage sur les mystères mongols, dont le chamanisme mongol.
Vous aviez peut-être un signe dans le rêve.
C'est ce que vous disent.
Oui, mais
c'est ce que nous, occidentaux, on ignore, parce que on n'est pas formés à ça, puis on est assez sceptique par rapport à ça.
En général, on est assez sceptique. Après, ça dépend des gens. Moi, je crois aux signes.
Après, la vie fait que, quelquefois, on se dit, ça, c'était finalement... Je pensais que c'était n'importe quoi, mais il s'est vraiment passé ça. Donc, on a des informations, et le travail que je fais aujourd'hui montre bien que ces informations existent bel et bien.
Alors justement, quand vous partez en 2001 faire donc un reportage en Mongolie, et là, alors là vous apprenez, c'est le monde qui peut-être vous tombe sur la tête, parce qu'un chaman au nom de Baljir vous annonce que vous êtes chaman. Alors, pour les auditeurs, dans cette région du monde, les chamans accèdent à la transe grâce au son d'un tambour spécifique, un son auquel, lors de cette première expérience... Vous, Corinne, vous réagissez violemment jusqu'à perdre le contrôle de vos mouvements. Donc pour lui, pour Baljir, vous avez bien les capacités chamaniques et ce sera votre voie. Voilà. Donc il décide. Il vous dit qu'il faudra suivre leur enseignement pour vous développer. Mais alors, pouvez-vous nous raconter cette rencontre avec Baljir, déjà, comment vous arrivez jusqu'à lui et comment ça se passe?
Donc c'est une amie mongole qui s'appelle Nara, dont je parle dans le livre où je raconte, l'autre livre où je raconte cette expérience. Et donc Nara m'emmène au nord de la Mongolie, à la frontière de la Sibérie, parce que la majorité, sur une population de 3 millions d'habitants à peu près, il y en a un peu moins en Mongolie, il y a environ une trentaine de chamans. D'accord. Donc ça vous donne une proportion de la population étant chamane sur l'ensemble. Donc c'est cette trentaine environ se trouve plutôt dans le nord de la Mongolie, la frontière de la Sibérie. Donc Nara m'emmène là-bas et me fait assister à une cérémonie chez le chaman Baljir. Voilà. Donc il commence à jouer du tambour et c'est vrai que je commence à trembler à tel point que Nara me l'a dit après, ses voisins mongols, parce que moi je comprenais pas, et ses voisins disent attends, il faut la faire sortir, elle a peur.
Vous avez pas à ce moment-là, vous avez conscience ou vous avez l'impression?
Ah oui, j'ai complètement conscience, oui, bien sûr. Je tremble comme ça, je me vois trembler et je sens que le son du tambour me fait un effet et je commence à trembler. Donc les voisins de Nara lui disent il faut la faire sortir, elle a peur, tu vois. Et Nara regarde, elle voit qu'il y a quelque chose qui est quand même pas qui est bizarre parce que j'ai pas l'air d'avoir peur non plus. Et non seulement je commence à trembler, mais j'ai les bras qui commencent à sauter, les jambes, enfin tout ça qui commence à bouger et je sens très bien moi que je ne contrôle absolument plus ce qui se passe dans mon corps, et encore pire, je me mets à pousser du hurlement de loup. Alors là, c'est en sortant de là, vous
mais
dites,
vous voyez,
oui, je me vois faire. Imaginez-vous quoi, vous êtes, ça peut arriver
mais
à tout le monde.
Bien,
je le dis bien, ça peut arriver à tout le monde.
Ouais.
Donc vous voyez, vous transformez. Mais
en ayant
c'est comme
conscience.
Si vous vous transformez en crapaud, quoi. Vous dites tout d'un coup, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Mais vous pouvez plus rien faire. C'est assez terrifiant. Donc quand je sors de cet état-là, de toute façon, je suis un peu sonnée. Donc le tambour s'arrête. Évidemment, je sors de cet état-là et je vois Nara et Baljir qui discutent pendant un moment, qui me regardent, l'assistance qui me regarde. Comme j'ai vu un truc curieux. Alors j'ai bien vu qu'il m'était arrivé quelque chose de bizarre. Et donc Nara finit par me parler et puis me dit pourquoi tu lui as pas dit que t'étais chamane? Voilà, comment ça a commencé? Alors j'ai
dit, ah bon
je peux jamais.
Laissez-moi tranquille.
Donc c'est drôle parce que j'ai retrouvé l'enregistrement de la BBC, parce que j'avais enregistré, donc j'ai retrouvé cette conversation et où je dis de toute petite voix, je suis pas chamane.
C'est rigolo. Mais quand on vous l'annonce,
c'est quoi? C'est-à-dire... Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là?
Ah, c'est étrange.
Alors en même temps, j'ai vu que ça m'a fait un effet bizarre. Il me dit, bah oui, mais si le son du tambour t'a fait cet effet, c'est que les esprits t'ont désigné. Parce que pour eux, en Mongolie, être chaman, c'est pas... D'abord, c'est pas exceptionnel. Dire, c'est juste un don comme s'est ferré un cheval. Ça n'a aucune importance. Donc pour eux, le don du chaman, c'est le don d'accéder à la transe. Pourquoi? Quel intérêt d'accéder à la transe? Parce que vous disent, c'est le seul moyen d'entrer en communication avec le monde des esprits. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde des esprits? Donc, j'avais un petit peu rencontré ça en Amazonie, mais alors lui m'explique que dans la tradition mongole, les esprits sont des entités qui sont les garants de l'harmonie du monde, donc de l'harmonie de votre vie aussi, de tout ça. Et que si vous dérangez cette harmonie, par une action ou une autre, même sans le faire exprès, vous énervez les esprits, évidemment.
Ils ont un ego, les esprits, on les énerve.
Vous les énervez parce que vous dérangez ce qu'ils ont fait. Voilà, exactement. Ils ont un ego, les esprits, pour eux, et puis ils aiment la vodka, ils aiment les cigarettes, ils aiment tout ça. Donc il faut leur faire des offrandes.
Ah
voilà.
Oui.
Mm-hmm. Donc vous les énervez, et comme vous les énervez, ben, ils vous font comprendre que vous les avez énervés en vous envoyant des problèmes. Mais sale bête. Voilà. Donc quand vous avez énormément de problèmes, c'est normal d'avoir des problèmes là-bas, hein, des problèmes jusqu'à perdre un enfant, deux enfants, trois enfants. Pour là-bas, c'est des petits problèmes. Donc quand un problème est récurrent, c'est-à-dire que vous perdez toujours tout le bétail, vous perdez vos proches, donc vous allez voir un chaman, vous dites là, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, j'ai énervé des esprits, mais je sais pas pourquoi. Donc le chaman va entrer en transe, il va jouer du tambour pour ça, et il va demander aux esprits quelle est la bêtise que la personne a bien pu faire pour les énerver à ce point. Donc voilà vraiment, vraiment dans la tradition mongole, le rôle du chaman.
Alors, en Amazonie, c'est différent ?
En Amazonie, le rôle du chaman est davantage, il a une notion de guérison, davantage. A priori, en Mongolie, la tradition vous dit que la cérémonie est une réparation, c'est-à-dire qu'on répare votre relation avec le monde des esprits.
D'accord.
C'est-à-dire qu'elle a été désharmonisée par une action que vous avez faite sans en avoir conscience, souvent. Et donc, vous les avez énervés. Donc, le chaman va devoir discuter avec l'esprit, demander pourquoi il est énervé et lui demander aussi de bien vouloir vous pardonner. Alors, pour vous pardonner, vous devez faire des offrandes aussi aux esprits. D'où l'importance de faire des offrandes pendant la cérémonie.
Donc, pour eux, les problèmes viendraient d'un comportement bon de l'humain, mais de sa mauvaise relation avec ce monde invisible.
Ben en fait, c'est son mauvais comportement qui le coupe de sa relation avec
l'invisible. Qui le coupe,
voilà.
D'accord.
Ouais. Parce que les autres, ça les énerve et ils vous envoient encore plus de problèmes jusqu'à ce que vous compreniez que vraiment, vous n'êtes pas dans le droit chemin. Alors, cette disharmonie que vous créez, elle se fait à partir de deux mots essentiellement, c'est-à-dire manque de respect. Alors, manque de respect des traditions, des rituels, de la nourriture que vous mangez, du bétail que vous élevez, donc manque de respect en général. Et deux, le non-respect de l'intuition. Parce que quand vous n'êtes pas chaman, pour eux, le seul moyen d'entrer en contact avec le monde des esprits, c'est l'intuition.
Ah oui.
Voilà. Donc ne pas respecter son intuition, c'est ne montrer aux esprits qu'on ne les respecte pas parce qu'on ne veut pas écouter ce qu'ils vous disent.
Et en même temps, je trouve ça assez juste.
Mais c'est juste.
C'est vrai.
C'est juste. Bah, ils observent ça, ça remonte à 7-8 000 ans, vraiment le chamanisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Donc ils ont 7-8 000 ans de recul sur ces phénomènes de la psychologie humaine qui font que on a tous les mêmes comportements devant les mêmes problèmes. Quoi. Voilà. Donc eux, ils ont repéré tout ça et donc le rituel pour ça est très bien fait.
Alors Corinne Sombrin, vous passez justement plusieurs mois par an à la frontière de la Sibérie auprès de Nketouya. Nketouya qui vous a été présenté par Balgir.
Alors oui, Balgir, lorsqu'il m'a dit on doit te transmettre cette connaissance, là tu vas rester 3 ans avec nous au fin fond de la Mongolie, j'ai dit ça va pas, je serais très honorée d'apprendre ça, mais de toute cette connaissance, en plus c'était extraordinaire de pouvoir accéder à ça, ça j'en avais conscience, mais j'avais pas du tout envie de rester 3 ans là-bas avec eux. Mon amie Nara m'a dit, écoute, peut-être tu peux venir plusieurs mois par an plutôt que d'y aller 3 ans d'affilée. Alors, on a posé la question au chaman et Balchir nous a répondu, pas de problème. L'essentiel, c'est vraiment que vous fassiez ce que les esprits ont décidé pour vous, sinon votre vie va devenir un enfer.
Et alors là, il n'y a pas la culpabilité qui se met en place ou quelque chose de peur, de... Comment ça se passe?
Oui, c'est un peu un mélange de... Oui, de culpabilité, de se dire, en fait, de peur surtout, de peur, parce qu'on a beau ne pas croire à ce genre de menace.
Oui, il y a 7000 ans derrière.
Je ne connais pas, il y a 7000 ans derrière, peut-être que. Et puis mon ami Nara me dit, écoute, c'est pas du bidon, hein, l'histoire des esprits, tu sais, ils sont, déjà ça a commencé dans ta vie, t'as vu, t'as perdu ton ami, 5 ans de cancer, de galère, de trucs, tu vois. Oui. Ça a commencé. Alors, c'était quand même énervant de penser que cette épreuve était là juste parce qu'on avait énervé les esprits, vous savez, c'était insupportable.
J'imagine, oui. Surtout que vous n'aviez pas fait le deuil encore, si vous avez...
Pas vraiment, encore. Non, j'étais en train de le faire, donc voilà. Donc après, j'ai compris d'autres processus et je me suis rassurée par d'autres processus. Mais voilà, c'est bizarre à entendre et on a vraiment un phénomène de rejet au moment où il vous dit ça, on est un peu en colère. Voilà. Mais bon, ça a passé, c'est vrai, elle me dit, écoute, c'est une connaissance qui ne se transmet que de chaman à chaman. Si tu peux le faire, c'est vraiment intéressant. Donc le chaman a dit oui, d'accord, plusieurs mois par an. Mais il m'a dit, c'est pas moi le chaman qui va vous former, parce que le découvreur du don est en général dans la tradition pas l'initiateur. Oui. Il faut donc trouver un autre chaman. Alors nous voilà repartis avec Nara et elle me dit, je lui dis mais où on va le trouver ce chaman? Elle me dit si les esprits t'ont déjà conduit jusque là, on va forcément le trouver.
Mais comment ça, vous êtes en train de vous balader?
Exactement, on est en train de se balader, d'aller de chaman à chaman et elle me dit tout simplement ça, c'est pour... Alors quand elle me dit ça, évidemment ça m'énerve parce que moi j'ai pas cette façon de percevoir le monde et je me dis si on fait un truc c'est qu'on l'a décidé, c'est pas que les esprits vont t'emmener à tel endroit et tel endroit.
Il y a beaucoup de volonté. Là on vous apprend justement à lâcher prise.
Il dit tu te débrouilles avec tu prends le chemin et puis tu vas bien trouver la chamane qui te...
Ah oui, mais comment ça se passe?
C'est difficile quand on est occidental de s'adapter à cette vision du monde à laquelle j'ai appris petit à petit à déjà accepter. Mais c'était difficile vraiment. J'étais vraiment dans une position de Madame tout le monde qui est confrontée à ça, quoi. C'est...
Oui, puis l'incertitude totale, quoi, de pas savoir
où je vais là. Enfin, je suis dans la steppe. Il faut que j'aille trouver un chaman. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin voilà, c'est juste parce qu'on m'a dit, parce que je me suis mise à faire le loup au fin fond de la steppe. Et c'est vraiment.
Oui, parce que globalement, c'est la seule expérience.
Quand vous prenez du recul, vous dites, c'est terrifiant, quoi. Ouais. Je deviens complètement cinglée. Hein.
Et alors, de chaman en chaman,
on tombe sur Inktuya qui dit, écoutez, moi, Nara raconte mon histoire à Inktuya, qui elle n'est pas du tout étonnée, évidemment, rien ne les étonne, ces gens-là, et elle dit, moi, je dois interroger les esprits aussi, donc je dois faire une cérémonie pour demander, un, confirmer que tu es bien chaman, et deux, que c'est bien moi qui dois te transmettre la tradition, parce que là-bas, on ne fait rien sans l'accord des esprits. Alors elle a fait une cérémonie où Nara m'a tapé dessus pour pas que j'entre en transe et où Inktuya à la fin a dit effectivement les esprits m'ont dit que tu avais le don, que tu avais reçu, ils appellent ça l'étincelle chamanique, donc il se transmet de génération à génération aussi et que c'est bien moi qui pouvais te transmettre cette connaissance.
On en parlera plus longuement quand on parlera de votre livre justement dans lequel vous en parlez beaucoup. En tout cas vous allez passer quand même donc 10 ans d'apprentissage, ce qui est quand même énorme.
Juste 10 ans complets. Hein.
Non, je me doute.
Mais enfin, ça fait
un long apprentissage. Et vous serez d'ailleurs même un sujet d'étude pour les anthropologues Laetitia Merli et Judith Angartner. Vous êtes en fait la première occidentale à accéder au statut de Udgan, c'est un terme mongol désignant les femmes ayant reçu le don, puis la formation aux traditions chamaniques. Alors, c'est vrai qu'en Occident, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en parle pas beaucoup. Moi, c'est vrai qu'il y a quelques hommes, mais du côté mongol, je n'ai pas la connaissance, mais il y a quelques hommes. Jérémy Narbi, par exemple, vous devez connaître.
Oui, bien sûr, on s'est écrit, oui. On a été en contact.
Parce qu'au fond, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'Occidentaux qui parlent de tout ça.
Non.
Donc vous les connaissez vous un petit peu tous?
Oui, je les connais. Je connais Yann, je connais Kounen, connais Jérémy.
Laurent Hugueli.
Non, je l'ai jamais rencontré. Donc on essaie de s'échanger les...
Donc vous pensez, moi j'ai la sensation que vous êtes précurseur de rappeler en fait en Occident que le chamanisme ça n'est pas juste réservé au peuple mongol par exemple et d'Amazonie, c'est au cœur de l'être humain. Enfin c'est quelque chose qui l'occidental, il y a toutes les couvertures, toutes les protections, toutes les croyances à percer avant de pouvoir accéder à quelque chose au fond qui peut toucher n'importe qui. C'est ça?
Oui, oui, bien sûr, mais dans la tradition chrétienne, quand on parle d'extase, c'est aussi oui. Une forme de transe, c'est la même
oui,
chose. Donc toutes les populations ont toujours développé, quels que soient les continents, ont toujours développé cet accès à la transe, et cet accès à la transe qui dit et qui révèle un monde qu'on voit pas dans un état normal, et qu'on voit pendant ces états-là, ou cette impression de fusionner avec l'univers, qui est l'état d'extase. Et donc ce sont des états qui sont récurrents et qui sont propres à l'espèce humaine. Voilà. Après, le chamanisme, c'est une culture. C'est-à-dire, on ne fait pas du chamanisme comme on ne fait pas du catholicisme. Mmh. On pratique une religion ou on pratique... voilà. Mais en revanche, les techniques de transe, elles, sont ce que j'essaie de démontrer par le travail en neurosciences qu'on fait aujourd'hui, c'est de démontrer que ce sont des capacités du cerveau humain. Donc l'accès à la transe. Hein, voilà. On ne parle pas du chamanisme, qui est, lui, une culture, évidemment.
Alors justement, après ces 10 années, pendant ces 10 années, vous continuez votre métier de musicienne. Mmh. Vous continuez vos expériences, vous écrivez différents ouvrages qu'on peut retrouver sur votre site. Moi, j'avais envie de savoir, enfin, si j'ai bien compris, j'ai la sensation que par contre, vous n'êtes pas chamane dans le soin, c'est-à-dire donner des soins à des gens. Est-ce que vous le faites ça en France?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans la tradition chamanique, le chaman, dans la tradition chamanique mongole, le chaman n'est pas forcément un guérisseur. Mmh. C'est-à-dire que quand vous faites une transe, que vous allez interroger le monde des esprits, vous revenez avec une réponse qui dit à la personne pourquoi vous les avez énervés, cette réponse est symbolique. Donc vous avez pris conscience que vous avez fait un acte qui est en disharmonie avec le monde, donc vous faites en sorte de ne pas renouveler cet acte. Mmh. C'est pas pour ça que si vous vous coupez une jambe, vous allez voir un chaman. Mm. Et ben, il ne va pas vous guérir. Hein.
Non, c'est sûr.
Voilà. Aujourd'hui, ouais. Ils ont bien compris, les chamans, les Mongols, ils vont voir le médecin après. Alors donc, ils vont voir le chaman là-bas, dans la mesure où le chaman peut réharmoniser ce lien entre le monde des humains et le monde des esprits. Et en fait... guérir votre âme, si vous voulez, il va vous mettre le doigt sur les actions que vous faites et qui peuvent énerver les esprits qui sont pas en harmonie avec votre environnement. Donc dans ce cas-là, le chaman n'a rien d'un guérisseur. Au terme occidental, oui. Voilà.
Oui. La guérison de l'âme, hein, vous l'avez dit. C'est autre chose, c'est quelque chose d'invisible. Donc forcément, pour l'occidental qui a besoin de preuves, c'est plus complexe. C'est quelque chose qui se vide à l'intérieur. Donc c'est difficile de montrer ça.
C'est plus une relation d'harmonie avec son environnement qu'on rétablit qu'une véritable guérison. Alors, si c'est dans l'interprétation occidentale de la guérison, vous avez des chamans qui ont des capacités de guérisseurs. Mm-hmm. Mais vous avez des guérisseurs qui ne sont pas chamans.
Oui, c'est important de faire la distinction.
C'est important de faire la distinction. Mm-hmm. Et vous avez des guérisseurs qui sont aussi chamans et des chamans qui sont aussi guérisseurs. Mais les deux termes ne sont pas liés.
Forcément, liés voilà. Ensemble.
Voilà. Ah oui. C'est une confusion qu'on fait ici en Occident. En tout cas, en ce qui concerne les traditions mongoles. Donc, parce que là-bas, ce qui fait la qualité de chaman, c'est vraiment la capacité d'entrer en contact avec ce monde des esprits et d'aller discuter avec ce monde des esprits.
Oui.
Voilà.
Oui.
C'est pas de guérir, c'est juste d'entrer en contact avec ce monde des esprits. Alors après,
parce qu'en Amazonie, j'ai l'impression que c'est plus justement lié aux soins.
Exactement. Mmh. Exactement. Donc, ce qui n'est pas le cas en Mongolie. Donc, moi, ma position, c'est pas, je m'en fous d'être chaman. Je veux dire, c'est pas ça qui m'intéresse. Et quant à guérir, je ne sais pas du tout si quelqu'un vient me voir avec un doigt coupé, je vais pouvoir le guérir. J'en suis pas du tout persuadée. Donc, j'ai émis beaucoup de doutes quant à ses capacités. Donc, c'est pour ça que je me permets pas aujourd'hui de dire si quelqu'un vient me voir, je vais vous guérir. J'en sais rien.
Mmh. Voilà. Donc, mais en même temps, vous, dans ces 10 années d'apprentissage, concrètement, vous continuez parce que vous voyez une transformation intérieure, quelque chose de concret dans votre vie, j'imagine. On ne peut pas s'en aller sur un chemin, même si on a été désigné chaman, sans avoir, surtout en étant sceptique, comme vous l'avez dit.
J'ai mis des années à comprendre ce que pouvait bien vouloir dire ce monde des esprits, Qu'est-ce que pourquoi je me transformais en loup? Pourquoi dans cet état j'avais
alors,
plus
attendez,
de force?
Attendez, pour l'auditeur, vous transformez en loup parce que ça
ah
veut
oui,
dire
oui,
quoi
faut oui, quand même, vous avez raison.
Un petit peu, juste. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, je me mets à pousser des hurlements de loup, vraiment. J'ai l'impression d'avoir des pattes à la place des mains et une truffe à la place du nez. En gros, c'est ça le plus étonnant. Et quand la transe se termine, on tombe dans les pommes. C'est une sorte de... Ouais, on tombe dans les pommes. Et les chamans vous disent que, en fait, l'esprit du loup qui est venu vous posséder pendant la transe, ben, il s'en va et que votre âme revient à votre place. Donc, vous redevenez ce que vous avez l'habitude d'être, en gros. Voilà. Donc, dans ces cas-là, Corinne revient. Mais en attendant, il s'est passé quelque chose de vraiment étonnant. Alors, j'ai passé beaucoup de temps au départ à essayer de comprendre pourquoi ça m'arrivait. Donc je me suis dit, bon, c'est le son du tambour, sans doute, provoque...
Il y a une force aussi décuplée, hein, apparemment.
Force, exactement, plus de force que dans un état normal. On ressent pratiquement pas la douleur. Mmh. On a des visions. Sensation de dépersonnalisation dans la mesure où on n'est plus soi, enfin ce qu'on a l'habitude d'être, mais tout d'un coup un loup ou un autre animal. Mmh. La perte de la notion de l'espace et du temps, parce qu'on est là dans un espace qui est noir. Et ces visions sont souvent en blanc, sur fond noir. Il y a des couleurs parfois, mais c'est assez rare. Et les chamans vous disent que c'est ce fameux monde noir qu'ils identifient, je suppose grâce aux trans, et qu'ils ont identifié comme étant le monde dans lequel les âmes s'en allaient après la mort. Mmh. Et donc c'est le monde dans lequel aussi les esprits se meuvent. Parce que pour eux, le monde éclairé tel qu'on le vit, donc la terre avec le soleil et tout ça, c'est juste l'image du monde des vivants. Mmh. Mais quand on n'est plus vivant, hop, on va dans ce monde noir.
Et c'est noir.
Oui, c'est noir, effectivement. La première fois que j'ai réussi à passer à aller dans une transe assez profonde pour passer de l'autre côté d'une espèce de porte que je ressentais dans le son. Donc je passais de l'autre côté et j'ai vu un vide infini, noir, froid. Ça m'a fait tellement peur que j'ai plus jamais voulu y retourner.
Et vous avez quand même
ça a duré trois jours. Mais
j'y
suis retournée, voilà.
Vous avez été retournée
quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais ça fait très très peur. Ouais. Ça fait très peur parce que c'est pas l'image du monde idéal qu'on se ferait de l'autre côté. Mais bon. Après, ça m'a plus jamais fait peur. Après, ça n'a plus eu la même impression. Alors, le chaman me dit, oh, c'est peut-être un peu ta peur de la mort aussi qui a fait que tout d'un coup, tu as fait une association entre les deux. Mais non, ça fait pas peur. Quand tu vas retourner en transe, tu vas voir, tu vas avoir d'autres choses. Et puis, tu vas t'y habituer. Ça fait pas si peur que ça.
Ah donc, alors en tout cas, vous dites bien que ce monde noir, le vide absolu. Il faut quand même avoir un certain niveau de conscience, enfin un certain niveau pour les chamans, pour pouvoir y aller, et que ce monde-là serait le monde d'après la mort. Après la mort, c'est là où on irait tous.
Oui, oui. Oui, dans leur interprétation.
Dans leur interprétation.
Alors, eux disaient jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à ce qu'il y ait les influences bouddhistes, ils disaient que les âmes restaient éternellement dans ce monde noir. Et après, les bouddhistes ont parlé de réincarnation, donc au XVIe siècle, ils sont allés en Mongolie, ils ont fait un peu de...
Vous en pensez quoi, vous, de la réincarnation par rapport
rien de plus. Oui, ni non, j'en sais rien.
Vous savez pas, vous n'avez pas d'opinion là-dessus.
J'ai pas d'opinion parce que je peux pas en avoir. J'ai ni pour ni contre, je veux dire, ni oui, ni non, j'en sais rien.
Vous pourriez avoir une opinion par rapport à ça, un ressenti ou une expérience justement dans vos voyages.
Les ressentis que j'ai, c'est qu'effectivement, quand on est en transe, on voit des personnages, on voit des esprits, on voit des personnages qui sont morts, on les perçoit. Alors, est-ce que c'est une création de mon cerveau ou est-ce que c'est une réalité de cette nouvelle nature d'un être, j'ai pas la réponse.
Ouais,
voilà. Donc
ouais.
Je vais pas me prononcer, mais en tout cas, oui, on voit.
Après, vous pouvez parler juste avec votre cœur et votre ressenti et votre intuition.
Ça, c'est dangereux.
Pourquoi ?
Non, je préfère parler juste de m'en tenir aux faits.
Vous préférez l'approche un petit peu scientifique des choses plutôt que
Oui, j'ai toujours eu cette approche, donc on me refera pas. En revanche, aujourd'hui, je ne peux plus dire que tout ça n'existe pas. Mmh. Voilà, donc. C'est bien une façon de différente de voir notre environnement et la transe permet d'accéder à d'autres informations, permet d'accéder. Alors, quand je me transformais en loup, quand je me rendais compte que j'avais plus de force que dans un état normal, quand je ressentais pratiquement pas la douleur, je me suis dit c'est quand même intéressant. Et la chamane me disait mais tu as des pouvoirs. J'ai dit mais quels pouvoirs? Je saurais quand même si j'ai des pouvoirs à part le fait d'entrer en transe au son d'un tambour. J'arrivais bien à admettre que le son du tambour pouvait modifier le fonctionnement du cerveau et provoquer cet état. Ça jusque là ça pouvait aller. Mais
quand vous êtes justement, alors, on imagine là vous rentrez en transe au son du tambour. Vous vous transformez en loup. Ça veut dire que déjà, à chaque fois que vous vous transformez en loup, c'est votre animal qui vous permet d'aller voyager. Enfin, alors, je sais pas
eux,
si on
eux vous disent que c'est un esprit qui vient vous posséder et qui d'accord. vous donne ses pouvoirs. Alors les pouvoirs, je savais pas lesquels c'était pour moi.
Oui, mais en tout cas, c'est toujours sous la forme d'un loup.
Pas toujours. Pour moi, d'accord. oui, souvent, mais après il y a plein d'autres animaux qui viennent aussi disent-ils vous posséder. Donc ça peut être le cheval, la poule, le cochon,
mais toujours un animal.
C'est très rigolo hein, finalement.
Ouais.
Voilà, toujours un animal. Mais il y a aussi des personnages hein. Ça peut être des personnages aussi parce que je me mets aussi à faire des chants absolument inconnus, à prendre des voix que je connais pas, alors eux vous disent c'est un esprit qui vient vous posséder à chaque fois. Bon, soit. Alors ce que je voyais en tout cas, c'est que alors
c'est
elle me dit
parce que ça n'a pas l'air de vous faire peur alors qu'au fond
ça me faisait peur au départ, mais bien sûr ça me faisait bizarre au départ. Puis je voyais que finalement je ressortais de cet état et que j'ai redevenu normal. Alors elle me disait je suis quand même pas folle. Et la chamane me disait mais plus tu vas pratiquer la transe, plus tu vas découvrir tes pouvoirs. Je dis mais c'est quoi ces pouvoirs à part celui-là quoi, j'en voyais pas. Et elle me dit écoute joue pratique le tambour et puis parce que c'est vraiment une connaissance qui ne se transmet pas par la parole mais et par la pratique. Et c'est bien la différence quoi. Donc c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on peut pas savoir ce qu'est l'autre tant qu'on n'a pas plongé dedans.
C'est vrai.
On pourra en parler pendant des heures et lire des tas de livres dessus, mais tant qu'on n'aura pas eu la sensation autre qu'intellectuelle, ben on ne saura pas vraiment ce que c'est. Il nous manquera une part. Antonin Artaud dit toujours que ces états permettent d'accéder à cette part de réalité qui nous fuit.
Ah, c'est beau, c'est joliment dit, c'est vrai. Ouais.
C'est très joli parce que c'est vrai que c'est un... Bon, on va voir après pourquoi. Mais donc... Elle me disait, tes pouvoirs vont se révéler. Donc jusqu'au jour où je suis sous le tipi, elle fait une cérémonie, elle joue du tambour. Et bon, évidemment, j'entre en transe parce que j'étais pas capable à l'époque de maîtriser la transe. Et il y a une personne à côté de moi. Et je me mets à voir, c'est une dame, je me mets à voir tout d'un coup des choses à la place de cette dame. C'est-à-dire qu'elle a plus son corps comme d'habitude, elle a plus de peau, elle a plus rien, mais je vois un univers à l'intérieur dans cet espace-là.
Les yeux fermés ou les yeux ouverts ?
Les yeux fermés. Les yeux fermés et je sais que il y a des choses qui vont pas. Voilà, je repère des dissonances, des disharmonies. Et non seulement je les repère, mais mon corps se met à faire des sons, des gestes, des tas de choses qui me donnent l'impression que c'est exactement ce dont cette disharmonie a besoin. Pour redevenir bien, pour réharmoniser ce truc-là. Donc quand je sors de cette transe, j'explique à la chamane et elle me dit voilà, ça y est, t'as trouvé ton pouvoir, enfin un de tes pouvoirs, t'as trouvé. Et à partir de là, je me suis dit c'est quand même intéressant parce que j'avais eu tout d'un coup une autre vision de ce qu'eux appellent la réalité de toute façon, mais c'est une autre perception de la réalité.
Oui,
et tout d'un coup, mais mon nez a plus senti des odeurs, mais des disharmonies, il a senti des choses qui n'allaient pas. Mes mains sentaient des formes dans l'espace, il y avait des boules, il y avait des choses que je ne sens pas du tout dans un état normal.
Et du coup, là, vous pouvez agir sur cette disharmonie en posant vos mains.
C'est l'impression que j'avais.
Ouais.
Mais je l'ai posé même dans l'air. Hein. C'est-à-dire que le corps.
Dans les corps énergétiques, en fait.
J'en sais rien, quoi. Mais bon.
Dans quelque chose.
Ouais. Dans quelque chose. Et je me disais, j'ai l'impression que ça sert à quelque chose que je fais. Donc à partir de là, j'ai décidé de commencer à essayer de convaincre des scientifiques de bien vouloir voir si ce que je voyais était dû à une modification du comportement de mon cerveau.
Corinne Sombrin, votre expérience dans la pratique de la transe chamanique et votre capacité à vous induire par la seule volonté intéresse désormais les scientifiques. Vous collaborez depuis 2006 avec le docteur Étévenon, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs il n'y a pas longtemps, directeur de recherche INSERM, et il vous a permis en fait d'entrer en relation avec différents chercheurs dont le but est de découvrir les mécanismes physiologiques liés à cet état de transe, état de conscience volontairement modifié et son influence sur le fonctionnement des hémisphères cérébraux. Donc les premiers résultats ont montré que cette transe chamanique, dont les mécanismes d'action sur le cerveau restent inconnus, modifiaient effectivement les circuits du fonctionnement cérébral. Donc malgré le scepticisme, l'ironie, la condescendance que vous citez dans votre livre « Les esprits de la steppe » sur les réactions de la communauté scientifique, vous y êtes quand même allé. Alors encore une fois, vous dites que vous n'êtes pas aventurière, vous êtes quand même un petit peu aventurière. Bon, alors comment ça s'est passé cette rencontre avec le docteur Étévenon et est-ce que c'est votre volonté ou c'est vraiment vous, enfin c'est vraiment la communauté scientifique qui vous a appelé ou c'est vous qui avez eu envie de faire un pas vers eux ?
Non, c'est vraiment moi là, pour une fois c'était moi. Voilà. Donc quand je voyais qu'il se passait tout ça à cause du son d'un tambour a priori, je me disais... Si j'ai ces visions, si j'ai ça, si je ressens ça, si j'ai plus de force, si je ressens moins la douleur, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans mon cerveau. c'est que le son du tambour fait quelque chose dans mon cerveau. Donc je me suis dit, il faudrait quand même démontrer que je ne suis pas folle.
Mmh. Et vous avez eu un doute là-dessus?
Bien sûr, vous vous imaginez en train de faire le loup et de trucs. Vous dites là-bas c'est normal chez eux, mais ils sont peut-être tous fous. Hein. Donc, j'avais bien l'impression que quand je revenais de cet état-là, je n'étais pas folle. En revanche, quand j'étais dans cet état-là, c'était absolument une découverte étonnante.
Je pense que dans ces 10 années, pour ne citer que ces 10 années d'apprentissage, quand vous revenez justement à Paris, Londres ou je ne sais où, enfin en Occident, est-ce que vous ne sentez pas justement votre acuité devenir de plus en plus grande, votre intuition se développer de plus en plus? Il y a des choses quand même qui vous montrent que par rapport peut-être à des amis de votre âge et qui n'ont pas fait votre parcours, il y a quelque chose qui se passe en plus dans votre vision que les autres n'ont pas. Est-ce que vous ressentez ça? Enfin, que n'ont pas, j'exagère, mais vous voyez.
Qui n'ont pas développé en tout cas.
Développé, voilà.
Je ressens des perceptions, moi, ma relation au monde, c'est différente. J'ai l'impression que je peux faire certains gestes, pas d'autres, que des objets ne sont pas à leur place, que quelquefois je ne peux pas traverser une rue, puis j'apprends qu'il vient d'y avoir un accident. Alors que, voilà, j'ai des petites perceptions qui se développent, mais c'est tellement à l'échelle d'une vie que c'est lent, quoi. C'est lent.
Oui, parce que vous dites, je ne sais plus, dans une interview que j'avais écoutée de vous, vous dites que entre le moment où vous avez par exemple une transe et peut-être le moment d'une révélation, il peut se passer plusieurs années.
Oui, bien sûr, bien sûr, il peut se passer vraiment du temps. Et alors on finit par plus attendre, hein. De toute façon on vit et puis il se passe. Alors de temps en temps on se dit, ça, je ne le percevais pas comme ça avant. Ou, tiens, là j'ai vu ça, ou ça c'est différent. Ou, voilà, mais c'est vraiment à l'échelle d'une vie. Mmh. Alors, les chamans vous disent qu'il faut 30 ans de pratique pour vraiment découvrir toutes ses capacités, et c'est vrai pour le cerveau aussi, dans la mesure où à force de faire on transforme la physiologie et la physionomie du cerveau. Mais il faut du temps. Oui. Donc, quand il m'arrive tout ça, je vais voir avec des scientifiques s'il n'y a pas un moyen de démontrer que si je vois tout ça, c'est parce que mon cerveau fonctionne différemment. Donc je suis allée voir d'abord qu'est-ce qu'on va voir un médecin en général, et puis donc il m'a écouté gentiment et puis il m'a tendu la carte d'un de ses copains qui était psychiatre. Donc, il m'a dit ce serait bien que vous alliez consulter cette personne. Voilà. Donc en gros, il m'a pris pour une folle. Heureusement, j'ai rencontré Pierre Etévenon qui a travaillé à Princeton sur les effets de par exemple du LSD sur le champ visuel. Et donc il connaît les états modifiés de conscience, il sait ce que c'est. Et il écoute mon histoire et puis il a l'impression que je raconte pas n'importe quoi. Enfin, il sent une sincérité dans ce que je raconte et puis il me fait faire une démonstration. Voilà. Donc, je fais une démonstration, il voit que effectivement il se passe quelque chose, que c'est étonnant, et il me dit le problème c'est le tambour. Comment on va faire entrer un tambour dans un laboratoire de recherche? Il fait 1 mètre de diamètre quasiment la chose. Et en plus vous sautez dans tous les sens, avec des électrodes sur la tête, ça va pas aller, quoi. Vous allez casser tout le matériel parce que les électrodes sont reliées à un ordinateur et tout ça. Voilà. Donc il m'a dit, si vous voulez, ce serait intéressant effectivement de faire un enregistrement de votre cerveau, mais un électroencéphalogramme. Alors on met des électrodes sur le cuir chevelu, mais il va falloir essayer de vous passer du tambour et deux, arriver à maîtriser un peu la transe, parce que là ça va pas du tout.
Donc vous rentrez en transe avec le tambour.
Au son du tambour, exactement. Et en Mongolie, tous les chamans entrent en transe au son de ce tambour. Et il n'est pas question pour eux de s'en passer. Ils ne voient pas l'intérêt. Je veux dire, ça n'a pas de... Donc je ne sais pas, au moment où Pierre Etève me dit ça, s'il est possible de se passer du tambour ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, je me suis entraînée.
Vous êtes entraînée,
c'est-à-dire vraiment. Je me suis entraînée, je me suis assise chez moi. Et puis j'ai dit, bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je fais venir la transe sans le tambour? Je savais que la transe provoquait chez moi un tremblement, surtout au début. Maintenant je peux m'en passer, mais au début ça provoquait un tremblement. Donc j'ai reproduit ce tremblement en pensant que peut-être ça pourrait reprovoquer la transe. Mm-hmm. Et c'est ce qui s'est passé. Donc au bout de
Ah, donc c'est pas alors ça, ce qui voudrait dire aujourd'hui que c'est pas le tambour qui déclenche la transe,
non,
que vous pouvez le déclencher vous-même
par la volonté. Exactement.
Incroyable. Ouais.
Donc j'ai montré que ça pouvait se déclencher par la volonté. Quand j'ai été prête à induire une transe, à m'arrêter, à recommencer, à m'arrêter, je suis retournée voir Pierre Etévenon. Je lui ai fait une démonstration et il m'a dit, là c'est bon, voilà. Donc là, on peut commencer une étude. Alors, il s'est mis en contact avec des chercheurs de sa connaissance. Et le premier qui a été... enfin, il n'y en a pas eu des masses. Hein. Celui qui s'est intéressé au sujet a été le professeur Florent Henry, qui, lui, est au Canada, à l'Alberta Hospital, dans la ville de Edmonton. Mm-hmm. Voilà. Donc, je suis allée là-bas. Il m'a fait faire une démonstration devant des... Alors, lui est neuropsychiatre, donc chef d'un service de psychiatrie adulte, mm-hmm. et responsable aussi des entrées du laboratoire de recherche EEG, dans lequel il fait les évaluations des grands criminels, d'ailleurs.
Ah ouais, ça doit être assez impressionnant.
Exactement, parce que c'est une forteresse, c'est un blockhouse. Ouais. Pour entrer là-dedans, j'ai dû passer les portiques de sécurité, à peine les empreintes et tout ça. Donc c'était assez marrant. Et donc, il m'a demandé de faire une démonstration devant des psychiatres, neuropsychiatres, d'une transe, mm-hmm. avant de faire les enregistrements. Je l'ai fait, je me suis assise par terre et puis j'ai fait ma démonstration.
Devant tous ces gens comme ça, comme une bête de laboratoire,
vous avez réussi. Mais ça ne me posait pas de problème. J'avais un peu peur au départ, est-ce que je vais pouvoir le faire après dans les conditions d'enregistrement avec des électrodes sur la tête, je me suis demandé. Mais devant des gens, je savais que j'arrivais à le faire, donc je l'ai fait. Et quand j'ai eu terminé, une première voix s'est élevée en disant c'est un dédoublement violent de personnalité. Un autre dit, c'est peut-être même un syndrome de personnalité multiple, ce qui est une pathologie très grave. Et un autre, on dirait même peut-être une méningite limbique. Donc il commence à sortir des termes, des trucs. Alors j'avais les oreilles qui, vous savez, les oreilles qui commençaient à baisser. Et tous se sont mis d'accord sur le fait que ce qui était très étonnant, c'est que j'avais l'air de maîtriser toutes ces... a priori pathologie. Et donc ils m'ont donné leur carte de visite en me disant écoutez, on veut vraiment connaître la suite parce que c'est intéressant votre histoire, on pensait pas que c'était possible un truc comme ça. Donc on a commencé, on m'a fait faire des tests, j'ai rempli des questionnaires, des tas de choses, et puis après on m'a fait faire un électroencéphalogramme où j'avais rien à faire en état normal, et après j'ai dû faire un électroencéphalogramme avec la transe, mais une transe légère bien sûr, parce qu'il fallait pas bouger le moins possible.
Qu'est-ce qu'il en est ressorti?
Alors quelques mois après, le professeur Florent Henry m'appelle et il me dit il faut arrêter ça tout de suite.
Ça soumet le cerveau à une rude épreuve, c'est ça?
Exactement. Il a vu, d'après les enregistrements, que la transe modifiait énormément le fonctionnement du cerveau. Donc, on avait prouvé que c'était sans doute à cause de cette modification que j'avais accès à d'autres capacités du cerveau, à d'autres informations. Donc ça, c'était indéniable. Donc au moins, on l'avait prouvé. Mm-hmm. Donc on était le premier à le faire. Mm-hmm. Et en revanche, dans quelle mesure ça modifiait le fonctionnement du cerveau? Il a comparé ces enregistrements à des groupes, ce qu'ils appellent des groupes contrôle, de 80 personnes en général. Donc il a comparé mon état normal à un groupe contrôle normal de 80 personnes normales. Mon cerveau est tout à fait normal dans un état normal. En revanche, pendant la transe, il a comparé à un groupe contrôle souffrant de schizophrénie, mm-hmm. un autre de état maniaque et un autre de troubles dépressifs. Mm-hmm. Et il a vu que dans cet état-là, les trois pathologies à la fois étaient là. C'est-à-dire que les tracés EEG de mon cerveau pendant la transe étaient comparables à ces trois pathologies à la fois. Donc déjà, il était rare de cumuler les trois trucs à la fois, les trois pathologies à la fois. Ce qui m'a dit, ce qui est encore plus extraordinaire, ce qui est le plus étonnant et qui pour nous est une avancée importante dans la connaissance du cerveau et des mécanismes liés au comportement du cerveau, c'est qu'on ne pensait pas qu'un cerveau sain puisse aller dans des zones, juste par la volonté comme vous l'avez fait, dans des zones aussi pathologiques, subir un tel stress et en revenir comme ça, juste par la volonté. Et surtout, sans en garder aucune séquelle. Alors ça, c'est pour nous, c'est pas possible.
Voilà. Vous voyagez entre vos trois cerveaux en fait quand vous rentrez en transe, peut-être.
Entre plein de. Alors lui dit, pour moi, ça reste dangereux. C'est un état de psycho généralisé, c'est-à-dire que le cerveau entre dans un stress maximum.
Sauf que ce qui est étonnant, enfin, moi, je sais qu'il y a des études. Bon, pour parler de l'ayahuasca, c'était pas le sujet, mais je reviens deux secondes là-dessus. Il y a des études qui ont été faites vraiment qui montrent que cet état, justement, qui est une transe et qui est un voyage. Par exemple, pour prendre le cas des toxicomanes, là où on n'arrive pas à avoir beaucoup de résultats, on va dire 50% de réussite dans une cure de désintox classique, avec l'ayahuasca, le fait que ça répare au niveau cellulaire, donc la mémoire du corps, on a des effets à 90% à peu près, enfin je ne sais pas quels sont les résultats exacts, mais on a des très très bons résultats avec l'ayahuasca.
Mais qui ne sont pas encore validés.
Alors ils ne sont pas validés. Et c'est
on ne peut pas s'appuyer dessus.
On ne peut pas s'appuyer.
Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui contredisent ces résultats et qui disent ils n'ont pas été faits dans des conditions scientifiques rigoureuses et on peut pas se baser dessus et voilà. Donc il y a encore une bagarre là-dessus, mais de toute façon ce sont des domaines où les scientifiques ne vont pas arrêter de se battre, hein, ouais. Voilà. Donc c'est d'où l'intérêt de leur proposer des résultats qui sont validés et validants. Donc c'est important, c'est aussi pour ça que je fais ces recherches, c'est pour essayer de dire, bon, alors, à quoi sert cet état ? Pour l'instant, on a juste montré qu'il était dû à une modification du comportement du cerveau. Donc ça, c'est quelque chose. Alors, dangereux, pas dangereux. Certains scientifiques disent, mais on ne peut pas appliquer les normes d'un cerveau à l'état de repos à un cerveau qui est en transe. Ce n'est pas les mêmes normes. Alors, ce qui serait considéré comme grave schizophrénie, trouble maniaco-dépressif, dans un état au repos, on ne peut pas l'appliquer à un cerveau qui est dans cet état-là. Il faut trouver d'autres interprétations, d'autres normes.
C'est une autre grille de lecture.
C'est une autre grille de lecture. Donc, certains scientifiques disent ça. Le professeur Florent Rouille, lui, donc celui qui a fait, qui est à l'origine de ces résultats, dit, pour moi, ça reste un état dangereux. Qu'est-ce qui me dit que votre cerveau ne va pas rester bloqué dans cet état-là ? Donc, eux appellent ça une décompensation.
Oui, mais je comprends et j'entends, je comprends tout à fait la
peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se retourne vers les traditions.
Ben oui, 7000 ans. Je veux dire, ils ne sont pas tous devenus fous.
Donc, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, il y a 7000-8000 ans de recul chez les chamans. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Ils ont l'air normal. Ils reviennent. Voilà. En revanche, ils signalent que lors des premières transes, il y a un risque. Donc, ce qui m'est arrivé lors de la première transe, le chaman m'a dit, j'ai mis 2 heures à te ramener, c'était compliqué, t'as failli mourir, quoi. Ton âme était partie. Bon, c'est leur façon d'interpréter les choses. Mais ce danger est reconnu lors des premières transes, et c'est pour ça que le chaman est revêtu d'un costume qui est considéré comme une armure, parce qu'ils ont tout à fait la notion que le voyage chamanique est quelque chose de dangereux. Alors eux disent, il y a des entités néfastes dans ce voyage qui vous attaquent. Donc c'est pour ça que le costume du chaman a des franges devant les yeux, parce qu'il faut en aucun cas que le regard du chaman croise le regard de ces entités sous peine de mourir. Ça veut dire pour eux ne pas revenir, quoi, en fait, pas revenir du voyage. Mais ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que si jamais la personne est attaquée par ces entités, bon, ce qui m'est arrivé quand lui me dit que mon âme est partie, le chaman a la capacité de le faire revenir. Il m'a fait revenir.
Et oui.
D'où. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est-à-dire que pour un cerveau qui, scientifiquement, est parti en décompensation, c'est-à-dire qu'il y a une crise schizoïde ou une crise maniaco-dépressive, eh ben, le chaman, par sa technique, lui, il s'en fait pas. Ils disent oui, c'est dangereux, mais un bon chaman ramènera la personne.
D'où, et je me permets de faire cette parenthèse parce que je pense que c'est très important, c'est que on s'improvise pas chaman déjà, et que voilà, les dérives qui se passent actuellement autour du chamanisme et de gens qui se déclarent chaman, voilà, il est pas recommandé de se dire je vais aller me faire un petit trip chamanique. On est dans des sphères qui sont dangereuses pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui pourrait tout à fait se faire avoir. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qui peut se passer autour de ça, et je pense qu'on n'est pas amené au chamanisme par hasard. Donc il y a un vrai accompagnement, quelqu'un qui vous dira dans un circuit touristique de venir faire une petite séance d'ayahuasca pour parler de l'Amazonie. Moi, je trouve qu'il faut dire danger, n'y allez pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai travaillé avec le professeur Florent Henry, il m'a expliqué que des gens qui avaient des terrains schizophrènes, c'est-à-dire que la schizophrénie n'était pas déclarée, c'était un cerveau, il y a des cerveaux qui ont des terrains. Donc quand il y a un terrain schizophrène, ce genre de substance peut absolument déclencher la schizophrénie. Donc avec des décompensations graves et des risques de jamais revenir. Et moi, j'ai vu des gens qui sont restés bloqués dans cet état-là, effectivement, à cause de substances hallucinogènes. Alors, l'intérêt de la transe en Mongolie, de l'induire par la volonté, ça veut dire qu'il n'y a pas en plus le danger lié à l'absorption d'une substance. Donc c'est juste la volonté qui fait que, donc c'est quand même mieux maîtrisé, mais c'est quand même, on ne joue pas avec ça, c'est quand même très dangereux. Et c'est vrai que plus le tourisme chamanique a de succès, plus de charlatans en profitent, et des gens qui sont absolument pas formés vont vous organiser des séances d'ayahuasca à n'importe où, même dans la forêt, même à Paris. Il y a des gens qui organisent des séances comme ça, et c'est dangereux dans la mesure où le chaman n'est pas compétent pour vous ramener s'il y a un problème. Voilà.
Oui, c'est ça, le retour, parce que
c'est le retour,
pour
oui,
qui n'a pas connu, il y a un retour nécessaire. Hein.
Exactement. Donc en Mongolie, vous disent que votre âme s'en va, mais qu'elle revient. Donc si jamais elle ne revient pas, qu'est-ce qu'il fait? Alors le chaman compétent a la capacité de vous ramener. Ça veut dire que si un chaman compétent a la capacité de ramener quelqu'un qui est en crise schizoïde ou qui est en crise maniaco-dépressive, si il a la capacité par ses techniques de transe de vous ramener, c'est que ces techniques de transe sont sans doute un outil peut-être pour apporter une réponse au traitement de ces maladies. Donc c'est personne évidemment. Évidemment, aujourd'hui, n'a la réponse à ça, mais en tout cas, c'est ce que ces premières recherches ont déclenché comme questionnement, et c'est ce qui a déterminé le lancement d'un premier protocole de recherche sur cette forme de transe induite seulement par la volonté. Ça, c'est ce qui rassure aussi les chercheurs, c'est qu'il n'y a pas de substance hallucinogène et pas de danger lié à ça, en tout cas.
Après avoir évoqué un petit peu votre travail avec les scientifiques, on va parler un petit peu de votre actualité. Vous avez sorti un ouvrage récemment qui s'appelle « Les esprits de la steppe avec les derniers chamans de Mongolie » chez Albin Michel. Et d'ailleurs, vous serez en dédicace au Salon du Livre de Paris, au stand Albin Michel, donc le 23 mars de 16h30 à 18h et le 22 mars de 12h30 à 13h30. Je rappelle votre site www.corinne.com. Alors, ce livre retrace votre rencontre avec Enke Tuya, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, qui est donc une chamane du peuple Tsa Ta'an. Alors, elle vit toujours donc dans un univers autarcique, mais elle a bien changé hein, depuis votre première rencontre. Et en fait, on peut dire que c'est plus un document, vous nous livrez, c'est un récit biographique, mais aussi un document ethnologique, puisque ce livre retrace une histoire du chamanisme des années 50 à 2010, avec les résultats du premier protocole de recherche, justement, dont vous venez de nous parler, sur la transe chamanique mongole, étudié par les neurosciences dont vous êtes à l'origine. Voilà. Alors, on va découvrir un petit peu, dans ce dernier quart d'heure, Enke Tuya et qu'est-ce que vous avez fait comme travail, en fait, avec elle pendant tout cet ouvrage. Donc, moi, je vous rappelle juste le début de la vie d'Enke Tuya. Elle a une enfance dure, primitive, vraiment. Elle vit en autarcie avec ses reines. Elle est d'une lignée de chamans, déjà. Et sa mère découvre rapidement ses dons. Elle a été ensuite formée par un grand maître et elle devient une chamane très puissante, enfin puissante, aux cérémonies très demandées pour soigner justement des maladies, supprimer des sorts. Et dans le livre, on sent que c'est pas évident d'endosser ce rôle, que c'est pas glorieux, on s'en vante pas d'être chamane, que c'est quelque chose qui est pas facile à porter. Qu'est-ce que vous pensez de est-ce que c'est quelque chose qu'elle vous a partagé, ça?
Oui, bien sûr, c'est toujours un fardeau de recevoir ce qu'ils appellent l'étincelle chamanique. C'est toujours quelque chose de lourd, parce que vous savez qu'à partir de là, vous êtes responsable du maintien de l'harmonie aussi dans le clan, dans la population, et que vous êtes confronté à des maladies, à des problèmes, à plein de choses comme ça, et qu'à chaque fois vous allez devoir endosser le costume du chaman, à chaque fois faire ce voyage chamanique, aller affronter les entités que vous voyez, les visions, aller discuter avec les esprits, leur demander de bien vouloir rétablir l'harmonie qui a été rompue. Donc c'est un vrai travail et c'est un combat à chaque transe, c'est un véritable combat qui va s'opérer. Alors non, c'est pas facile d'être chaman, c'est vraiment un lourd fardeau. Et donc Enke Tuya l'a reçu, elle ne voulait pas le recevoir, et en plus elle est née dans une période où le communisme interdisait absolument la pratique de ces traditions, sous prétexte que c'était arriéré et inapte à un pays moderne. Donc elle s'est rendue compte petit à petit, ses parents se sont rendus compte, sa mère était chamane. Sa mère ne souhaitait qu'une chose, c'est que sa fille n'ait pas hérité de cette étincelle. Malheureusement, je raconte son enfance et elle est en train de ramasser de l'eau dans un seau pour amener chez elle, parce qu'ils vivent dans un tipi, hein, les tsatanes. Donc il n'y a pas d'eau, pas d'électricité courante, évidemment. Donc tout d'un coup, elle a des visions, elle voit son oncle, et son oncle lui dit « je serai là demain ». Donc elle rentre chez elle, elle dit ben, notre oncle sera là demain. Mais elle ne sait pas encore que c'est des visions chamaniques, elle ne sait pas. Donc elle dit ça à sa mère qui commence à flipper et qui se dit oh là là, où est-ce qu'elle a vu ça encore? Et sa fille lui dit ben, je l'ai vu là, il était devant moi et puis il m'a dit qu'il serait là demain. Donc sa mère lui dit non, ben, t'as encore rêvé, t'as une imagination. Sa mère ne veut pas le croire. Et son père, bien sûr, le dit aussi. Et quand le lendemain ils arrivent, quand ils voient l'oncle arriver le lendemain, alors qu'il n'y avait aucun moyen d'annoncer évidemment son arrivée, sinon par cette vision, les parents commencent à se dire aïe, là, cette fois-ci, elle a dû hériter de l'étincelle. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand elle est petite à l'école, elle fait un rêve et elle rêve que sa meilleure amie à l'école fait une chute et qu'elle se tue. La petite fille ne veut pas croire que c'est une vision. Elle dit qu'elle a fait un cauchemar. Et quand la saison d'après, elle entre à l'école et puis que la chaise de son amie reste vide et que le directeur de l'école vient d'apprendre que son amie est décédée, qu'elle a fait une chute mortelle, qu'elle est tombée et qu'elle est morte. Là aussi, elle se dit ben, je le savais avant les autres. Les esprits m'ont parlé et elle a le don chamanique, évidemment.
Quand vous rejoignez Nketuya, elle vit encore dans sa famille, dans un monde protégé de la modernité, où le respect de la nature et des rituels est omniprésent, où elle vit une dure vie, on peut le dire, d'éleveur de rennes, tributaire du climat, des prédateurs, des quotas de production imposés par l'État. Et de cette vie, vous allez la voir aller petit à petit, jusqu'aux années 2000, aller vers la société moderne, on peut dire, avec l'afflux des touristes, la voiture, la télé, le téléphone, qui vont bouleverser l'équilibre de leur écosystème. Ce que vous dites sur votre site, ce que 70 ans de communisme n'avait pas réussi à éradiquer, 10 ans d'économie de marché l'accomplit, aucun de Satan n'échappe plus au dieu argent et à l'ère du marché planétaire. Alors, comme ça, de l'extérieur, on pourrait se dire quel dommage. Est-ce que pour vous c'est dommage? Enfin, est-ce que vous avez senti justement une différence dans sa façon d'être, dans son rapport au chamanisme justement, et dans sa façon d'enseigner aux autres, encore à vous, j'imagine qu'elle continue de vous enseigner.
Non, elle ne continue pas de m'enseigner parce que bon, elle m'a donné les outils maintenant. Elle m'a appris à voyager dans ces mondes et donc je me débrouille maintenant. Mais en revanche, j'ai vu pendant ces 10 ans, j'ai vu le changement de l'économie. J'ai vu les touristes arriver, l'afflux. Il reste une vingtaine de familles de Satan aujourd'hui en Mongolie. Et c'est vrai que tout ce qu'elle me racontait, les traditions qu'elle me racontait, je me disais ça va bientôt disparaître. Et il reste une vingtaine de familles parce qu'ils se mélangent à des Mongols, ils se marient à des Mongols, donc leurs traditions purement de Satan sont en train de disparaître, c'est tout. Donc j'ai eu envie de raconter ce qui s'était passé, qu'elle me raconte son enfance, qu'elle me raconte comment le chamanisme était pratiqué dans son enfance, au quotidien, à quoi ça servait, pour vraiment le recadrer dans un quotidien. Elle m'a raconté son enfance, elle m'a raconté tout ça. Et ce que c'est devenu aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, bah, ils voient des touristes qui leur parlent de maisons, de voitures, de télévision. Donc ils ont envie d'avoir ça aussi, de téléphone portable. Donc
ce que je raconte. Confort.
Mais oui. Donc c'est normal. Ils ont pu acheter une Jeep. Une vieille, hein, pourrie de l'armée russe, mais c'est quand même quelque chose qui roule et qui a permis de lui sauver la vie aussi, parce qu'elle a eu des crises cardiaques, donc c'est on peut pas leur reprocher d'avoir envie de ce confort, et c'est tout à fait normal. Donc je raconte dans ce livre juste ce parcours des années 50 à aujourd'hui, bon évidemment avec mon arrivée en 2001, mais bien avant, tout son parcours pour comprendre à quel point cette vie est rude. Ils disent que les Tsatan ont des vies tellement rudes, ils vivent dans des régions tellement difficiles que même les plantes poussent plus lentement qu'ailleurs. Voilà. Donc
Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'écrire ce livre? J'imagine effectivement quand on a été enseigné par Enke Touya, ce qui est comme votre cas, bien sûr qu'on a envie d'en laisser une trace parce que c'est une expérience hors du commun. Mais peut-être au-delà même de votre expérience, il y avait une volonté de faire connaître au grand public le mongolisme, le chamanisme en Mongolie.
Ouais. Oui, c'est cette nécessité, me semblait-il, de ne pas laisser perdre ces traditions qui sont en train de complètement se transformer. Parce que quand les voitures de touristes arrivent à 17h, on ne fait pas une cérémonie la nuit, on la fait à 17h. Alors que la nuit, traditionnellement, les esprits sont plus puissants. Mmh. Donc toujours, on fait les cérémonies la nuit. Il faut attendre que 3 étoiles soient dans le ciel, allumées dans le ciel, pour commencer la cérémonie. Donc après, on s'adapte au tourisme et au tour opérateur. Donc forcément, ça transforme les traditions, ça transforme plein de choses. Mais bon, c'est l'histoire des humains. On a toujours été confrontés à des changements, à des mélanges de populations qui paraissent toujours un peu chaotiques au départ, mais après ça apporte quelque chose de nouveau, ça apporte de toute façon une évolution. Donc on peut pas l'empêcher, ça fait partie. Elle dit quelque chose de très drôle, c'est que le progrès c'est comme la pluie, on peut pas l'empêcher de tomber, quoi, en gros. Mmh. C'est quelque chose qui est très représentatif de sa façon simple d'envisager les choses. Et raconter aussi, il me semblait important de raconter le chamanisme dans son contexte quotidien, pratiqué par des gens, et pourquoi on fait telle cérémonie et à quoi ça sert. Voilà. Mmh. Parce qu'ici on en a une idée très vague, et il me semblait important de recadrer tout ça dans sa vraie fonction, et pas avec un fantasme de le chamanisme, ça guérit tout, ça apporte une solution à tout. Non, pas du tout. Donc en les voyant vivre au quotidien avec ça, avec ces rituels qui souvent paraissent assez... On a vraiment l'impression que ça sert à rien, quoi. C'est vraiment quand quelqu'un a perdu son âme, quand on veut la récupérer, on va jeter du lait dans le trou à fumer du tipi. Bon, si un peu de lait retombe dans la tasque de la personne qui est venue derrière, ça veut dire que l'âme va peut-être revenir. Enfin, voilà, c'est une... Mais derrière ces histoires, derrière ces interprétations qui sont symboliques évidemment, on retrouve des parts de réalité, des choses qui sont bien ancrées dans la réalité, qui sont des observations depuis 8000 ans, donc c'était très intéressant pour moi. Ça a été un voyage extraordinaire de retracer tout ça et de le replacer cette tradition dans leur contexte quotidien.
Et par rapport à votre grande expérience maintenant autour de ce chamanisme, comment vous pourriez, il y a un engouement en Occident sur un retour justement sur des valeurs plus, la nature, se rendre compte que ce monde ne nous convient plus tel qu'il est, et qu'il y a un retour à des valeurs simples. Moi j'ai interviewé par exemple Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse, sur l'agroécologie, des valeurs qui sont dans le chamanisme, qui sont autour de la nature, qui sont autour... Alors après, il y a les esprits, bien sûr, mais je veux dire, il y a aussi dans le chamanisme un rapport à la nature, un rapport...
Un respect, surtout. C'est ce mot dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment le respect de ce dans quoi on vit. C'est-à-dire que les techniques de transe vous obligent à prendre conscience du lien et de l'interdépendance que vous avez avec votre environnement. C'est-à-dire que dans cet état-là, alors on a vu avec les scientifiques que c'est dans le cerveau, eux disent, bon, en gros, il y a deux cerveaux, si on veut faire très simple. Il y a le cerveau spéculatif, qui est d'ordre intellectuel, mm-hmm. et le cerveau perceptif, qui est d'ordre intuitif. D'accord ?
Donc nous, du cerveau reptilien qui...
Non, on va parler de ces deux-là. Donc dans nos traditions, dans nos civilisations, on est surtout entraîné à travailler sur le cerveau spéculatif, c'est-à-dire l'intellect, mm-hmm. et ce qui nous fait réfléchir tout le temps.
On va dire le cœur et la raison, en gros.
Oui, c'est ça. Et ces techniques de transe, justement, permettent de réactiver ce cerveau perceptif, parce qu'on s'est rendu compte en faisant les électroencéphalogrammes que c'était surtout les zones, ce qu'ils appellent les zones limbiques, donc qui sont d'ordre perceptif, qui étaient pour une fois plus actives que les zones spéculatives. Donc c'est pour ça qu'on a accès à des informations qu'on n'a pas dans un autre état.
Voilà, tout simplement,
c'est pas compliqué. Alors quand on est dans cet état-là de transe, justement, on a la perception de notre connexion avec cet environnement. L'ego est vraiment une création du cerveau spéculatif, c'est-à-dire de l'intellect. C'est-à-dire que là, on a l'habitude de se percevoir, on a l'habitude d'un jeu, on a l'habitude d'une personnalité qu'on se construit jour après jour. Et dans cet état-là, tout d'un coup, tout ça explose. Mm. Comme lui, il n'est plus là pour nous dire, bah, tu es comme si, tu es comme si, tu es comme ça, bah, tout d'un coup, on a plus de force que ce qu'on a l'habitude d'avoir, on ressent moins la douleur que ce qu'on a l'habitude de ressentir, on a des perceptions, on n'est plus je, on est un loup, on est un animal, on est un truc. Donc, ça nous permet de réaliser, et non seulement on a cette autre personnalité, de cette autre impression de nous, mais en plus on a l'impression que tout est interdépendant. C'est-à-dire que chaque geste, chaque action va avoir une conséquence sur ce qui est autour de nous. Donc ça nous fait réaliser, parce que à quel point ce respect de l'environnement est nécessaire. Et donc ce travail sur cette intelligence perceptive est important parce qu'elle nous donne des informations, elle nous donne une mesure de la façon dont il faudrait se comporter pour être en harmonie avec tout ça. Mmh.
Est-ce que vous avez pensé, vous avez votre expérience d'occidental, est-ce que vous avez pensé faire ces fameuses recherches avec des maîtres de sagesse, ce qu'on appelle des maîtres ou des chamans, hein. Quand je dis des maîtres, c'est des gens qui ont acquis un état de conscience qui fait qu'ils pourraient participer à ce genre d'expérience. Et parce que je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens sur cette planète qui ont expérimenté des états de conscience modifiés,
qui ont guéri.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en Occident, on en est encore à ce clivage, autant à ne pas se rendre compte suffisamment, à mon goût, de l'intérêt du chamanisme, et d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas
des techniques chamaniques.
Des techniques chamaniques,
ce serait comme dire l'intérêt du catholicisme.
Oui, voilà. Tout à fait.
Donc,
des
techniques chamaniques, des techniques de transe.
Dans la guérison même de pathologies psychologiques.
Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur la méditation, par exemple.
Oui, tout à fait.
Donc il y a des recherches aujourd'hui qui sont faites là-dessus. Et c'est en fait l'occidental a décidé. Bon, le scientifique a pris le pas en Occident. Donc on a décidé d'interpréter le monde au travers du regard du scientifique. C'est un choix. Mm. Il est très bien. Mm. Il est très bien parce qu'aujourd'hui.
Oui, mais il n'est pas complet.
Il n'est pas complet, exactement. Donc c'est pour ça que si vous voulez aujourd'hui intéresser un scientifique, il faut lui parler dans un langage qu'il va pouvoir entendre et comprendre. Voilà. Donc le travail que font ces méditants en passant sous des électroencéphalogrammes, c'est ça, c'est mm-hmm. dire, écoutez, moi si j'ai ces perceptions, c'est parce que mon cerveau, bah, tout d'un coup, il fonctionne différemment. Donc il y a un moyen de faire fonctionner le cerveau différemment, il y a un moyen donc d'avoir une autre perception de l'environnement et d'avoir un autre rapport au monde, à soi, et donc beaucoup plus intuitif, beaucoup plus juste, et qui sait si ce que je fais est bon pour moi ou pas bon pour moi.
Oui, mais comme vous le disiez justement tout à l'heure, vous êtes capable de le faire, donc beaucoup de gens sont capables de...
C'est quelque chose
qu'on a à l'intérieur de nous. Exactement. Pourquoi ces scientifiques n'essayent pas
eux-mêmes? Grâce à ces recherches, ça commence, je veux dire.
Ça commence, ils commencent eux-mêmes.
C'est-à-dire c'est grâce à ces résultats, donc des résultats que j'ai eus à Edmonton, ou les résultats qu'ont eu les méditants dans le Wisconsin, ou avec... d'autres chercheurs, c'est parce qu'on leur donne des résultats qu'ils peuvent regarder, qu'ils peuvent entendre, qu'ils disent « Ah oui, ah bah oui, tiens, ça c'est intéressant. » Donc c'est grâce à ça que moi j'ai pu intéresser d'autres chercheurs, c'est un résultat qu'un scientifique peut entendre qui permet de... Voilà.
Et ce qui est-ce veut... que ce chercheur ou ce scientifique serait prêt à tenter lui-même l'expérience?
Mais bien sûr, du coup il trouve ça intéressant, parce que si on lui parle un langage qu'il comprend, donc tout d'un coup il trouve ça intéressant. Et c'est malheureusement, parce que nous on sait que ces techniques ont un intérêt, donc l'idée c'est pas tellement de prouver qu'elles ont un intérêt, c'est de prouver à ceux qui sont sceptiques qu'elles ont un intérêt.
Pour conclure notre entretien, est-ce que aujourd'hui, vous allez continuer, j'imagine, dans cette voie. Est-ce que vous vous sentez toujours dans une quête initiatique ou c'est juste une continuité de rencontres qui vous a amené petit à petit à aller de plus en plus loin? Là, le protocole scientifique aujourd'hui et demain, est-ce que vous avez une idée de demain? Dans la continuité de...
C'est juste une histoire d'humain, c'est d'apprendre à mieux connaître ses capacités, c'est tout. Ouais. Et d'être le plus juste possible dans son rapport aux autres, au monde et à soi. D'être le plus... d'utiliser justement toutes nos formes d'intelligence.
Donc pour vous, tout le sens de tout ça, c'est d'aller démontrer le plein potentiel de l'humain
De montrer qu'il a un cerveau et qu'il ne sait pas s'en servir. Voilà, déjà, c'est une chose. Mais ça, c'est bête. Je veux dire, le cerveau, c'est juste une interface avec le monde. Donc, on sait aujourd'hui que ce qu'on perçoit du monde, ce n'est pas le monde, mais c'est juste une perception du monde créée par notre cerveau. Mmh. Donc, augmenter le potentiel de ce cerveau, en tout cas, se servir de davantage du potentiel de ce cerveau, c'est avoir. Augmenter notre rapport au monde et à l'environnement. Donc c'est une façon d'améliorer notre place dans ce monde. Après, de façon plus mystique, après avoir se servir de ça pour se relier davantage à son environnement. Donc si on prend ce mot-là de relier, de religion, c'est juste une façon de se positionner par rapport au monde.
Vous, en tout cas, c'est comme ça que vous le vivez ?
Mais oui, parce que vivre une expérience d'extase, comme on peut le vivre dans cet état-là, c'est extraordinaire.
Ça vous a changé votre rapport avec les autres, de toute façon,
bien sûr,
j'imagine.
Bien sûr.
Vous pouvez dire que vous aimez plus l'humain qu'avant ?
Oh, j'ai toujours aimé l'humain.
Vous avez toujours eu ce sentiment d'aimer. Ouais. C'est plutôt dans la potentialité, plutôt que dans l'amour ?
Dans la potentialité et vraiment dans la façon de percevoir ce dans quoi on vit et de quoi on est dépendant et interdépendant et de voir à quel point le rôle de chacun est important et que chaque chose dans ce monde a une action sur le reste et le moindre de nos gestes est important. Donc de prendre conscience de ça et le développement de cette intelligence perceptive nous permet de mieux être en phase avec ce qui nous entoure. C'est bien le problème d'aujourd'hui, c'est que on est complètement déphasé, on est déconnecté de la réalité, on mange des aliments, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est vrai, quand je vais en Mongolie, qu'il y a des chèvres et qu'il faut tuer la chèvre pour la manger, je vous garantis qu'on la respecte, la viande qu'on mange après. On a perdu cette notion ici de respecter ce dans quoi on vit. Donc c'est important de remettre tout ça en phase.
Donc, votre mot de la fin, ce serait
Bonjour.
Respect. Merci, Corinne.
Merci à vous.
Au revoir.
La révolution silencieuse continue sa route en conscience, comme à chaque fois. Merci de votre fidélité. Vous pouvez réécouter l'émission dimanche à 21h30 et puis ensuite en podcast sur mon blog www.estellepenin.com. Je vous donne rendez-vous le 19 avril. D'ici là, que les esprits vous protègent.